Un tout petit peu devant ici.
Jean-Paul, tu peux envoyer un message à Yahoo pour lui dire qu'on commence.
Bien. Ouais, il faut arrêter. Il y a du son. T'appuies ici. Non, mais c'est pas ça, c'est ça.
Non, c'est la télé.
La télé. T'appuies ici. Alors, vas-y. Voilà. On enlève le son entièrement. Le son de ça, quoi.
Le son de la télé.
Ouais.
C'est bien.
Allez, d'accord. Alors, Bechem Hashem, Natsev et Natsliar, Bezrat Hashem, bravo à tout le monde qui est venu. Bezrat Hashem, que Hashem fasse que cette journée, ce soit un Kiddush Shamaim, que Bezrat Hashem, vous ayez toujours le mérite d'étudier la Torah avec vos enfants, vos petits-enfants, et qu'on soit Bezrat Hashem Zoché tous, que grâce à ce limud Torah, que Hashem, il réunit, je suis sûr, maintenant tous les anges dans le ciel pour dire Chazou, Chazou Banaï. Dimanche à Neuilly. Qu'est-ce que les Juifs dimanche à Neuilly font? Alors, il y a plusieurs activités. Et voilà que Baruch Hashem, aujourd'hui, on s'est réunis pour faire ce Yom HaTalmud, pour étudier 7 dapim de Gemara. C'est pas quelque chose d'anodin. Pourquoi on a choisi de faire ça? C'est pour dire Gam anachnu yecholim. Yes, we can. On peut aussi. Alors, c'est vrai qu'en général, les rabbanim qui viennent disent, bon, les pauvres neuilliens ne comprennent rien dans la vie. C'est pas les batim. C'est des jeunes. Ils ne connaissent pas encore bien. Ils n'ont pas compris encore c'est quoi la Torah. Mais nous, on va relever le défi. Super Dugo, vous êtes d'accord avec moi? On va relever le défi. Et on va dire, yes, oui, anachnu yecholim. Nous aussi, on sait faire cette dapim de Gemara. Simplement de les faire, mais de les comprendre. On sait les analyser et on sait les étudier. Alors, Bezrat Hashem, que Hashem fasse que cette journée soit comme un rempart, comme une protection pour tous les participants, pour tout le peuple d'Israël. Bezrat Hashem, que Hashem, on voit, comme c'est écrit, qu'on est dans la semaine de Hadar, le Zayn Hadar. Moshe Rabbeinu, il attend, comme c'est écrit dans le Orachem Kadosh, que le Mashiach, il attend le feu vert de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est prêt à appuyer sur ce fameux bouton. Pas dans le bureau ovale, pas celui-là, pas ce bouton-là, un autre. Le bouton du Mashiach. Il fallait simplement qu'on se réunisse pour étudier la Torah. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne la possibilité de commencer et de finir Bezrat Hashem, d'étudier ces 7 dapim de Gemara avec la joie, le bonheur. Et juste avant de commencer, on voulait dédier cette journée les Ilou Nishmat, les personnes qui ont œuvré, qui ont donné, qui ont participé au Kiddush, petit déjeuner, le repas, etc. Donc il s'agit de Victor Chai Ben Rina Diluya, Yehudit Bat Maya Mimoun, Rachmuna Bat Mara, Najuma Bat Rachel, et Aaron Ben Moshe, Chaim Ben Aaron, Yosef Barour Ben Aaron, Keti Bat Shlomo, Kamuna Bat Yosef. Alors, Bezrat Hashem, soit les Ilou Nishmatam, que ce Limud HaTorah leur les fait monter encore plus dans le Gan Eden, Amen Ken Yiratzon. Et sans aucun rapport, on va faire une refoua Shelema à Mahlouf Ben Roubida qui a eu une crise cardiaque et que Hachem lui envoie une refoua Shelema. Jean-Paul, tu peux m'envoyer les noms là que tu as? Ah d'accord. Ok, alors donc on va commencer. Bezrat Hashem. Allez, donc le premier daf de Maseret Psachim. On y va, on se concentre. Et Bezrat Hashem, avec tout ce qu'on a mis en place, Vous allez voir que c'est la Gemara, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est trop facile, c'est trop facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, la Gemara, c'est pas pour moi, c'est des trucs pour les religieux. » Pas du tout, c'est pour tout le monde et tout le monde peut comprendre et tout le monde peut pénétrer, analyser et vivre la Gemara. Mishnah, la première Mishnah de Maseret Pesachim, Or le Arba Asar, Botkim et Hametz, les Or Anel. Les Or Aner, Kol Makom Shen Machnissim Bo Hametz, En Tsarir Bedika. Dit la Mishnah, la nuit du 14 Nissan, on doit chercher le Hametz à la lueur d'une bougie. Évidemment, tout endroit où on ne fait pas rentrer, fait pas entrer du Hametz, n'a pas besoin d'être vérifié. Donc, dit la Mishnah, il y a une mitzvah de Botkem Ter Hametz. On va voir le Rashi. Voilà, vous avez à droite le Rashi. Botkem et Hametz. Rashi nous dit, Shelo Yaavor ala bebal yerae ou bal yematse. Afin de ne pas transgresser le lave, les lavim de la Torah, de posséder, de voir, de posséder le Hametz. Donc, la bdikat Hametz, c'est l'antidote, donc le remède pour ne pas transgresser les lavim qui sont spécifiques dans Pessah, Baliera et Baliematse. Donc, en faisant bdikat Hametz, je fais bdikat Hametz, et hop, je ne transgresse plus la Torah. Tosfot, Or le Arba Asar, Piresh Akuntres. P.E. c'est Piresh Akuntres. Nous a expliqué Rashi, chez Lo Yavor Alav Bebal Yerae ou Bebal Yematse. Voilà ce que dit Rashi. Tosfot demande, Vekache Leri. Et son petit-fils demande, hé papy, je comprends pas, papy, je comprends pas ce que tu dis, Kache Leri. Donc c'est son petit-fils qui va de Tsarir Bitoul. Kedama Bagmara, Abodek Sarishivatel, Umidoraita, Bibitul Baal Masage, Ama Isrifochamim Bdikaklal. Tosfot demande, mais je comprends pas du tout, mais pourquoi fallait-il faire se fatiguer tellement, tellement, chercher le Hametz dans les coins et les recoins de la maison? Mais c'est pas vrai. Il suffit de dire cette fameuse formule magique. Kol Hamira ve Hamira de Kabeshuti, de Chazite ou de Chazite, de Berte, Lipti ve Avekar Fradara, ça prend 15 secondes et on n'a pas besoin de 24 mètres. Et la Gemara dit, comme dans l'ordinaire d'Avab, Amoudbet, la Gemara dit, Abodet, Rishivatel. Donc il faut faire 10K, Midoraita, Bebitoul, Beal Masagé, ça suffit au Bitoul. Donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? Si je fais 24 mètres, tu fais 24 mètres, je suis pas au verbe balayer, mais il faut faire 24 mètres. Pourquoi faire 24 mètres? C'est trop. Imaginez-vous la différence. 15 secondes, on a réglé le problème, on n'est plus au verbe sous balayer et matzé. Et nous, combien de temps ça nous prend pour faire 24 mètres? Un mois. Demandez à vos femmes pourquoi tout le monde s'enfuit de leur maison. Pourquoi tout le monde s'enfuit? 24 mètres, Shemirachem, pardon, on part, mais j'ai pas d'argent, c'est pas grave, je prends une alvaa, je vais emprunter, je veux pas rester à la maison. 24 mètres, voilà, on n'a qu'à faire ça. C'est pour ça que, en rouge là, vénérer les riz, c'est pour ça que riz nous dit, vénérer les riz, voilà, la suite là, on va la voir, vénérer les riz, de af al gav, de sage be bitul be alma, ichmiru chachamim, divdok hametz, ou les varos chez l'eau, yavo, les ochlo. Dit Tosfot, non, c'est pas ça. C'est vrai que, pour ne pas transgresser les lavim de la Torah, il suffit de dire cette fameuse, faire le bitoul. On dit kol hamira et c'est fini. Alors pourquoi il faut faire 24 mètres? Pourquoi j'ai dit, il faut faire 24 mètres? Ça, c'est un autre problème. On a un problème que même si on a fait 24 mètres, malgré tout, on est obligé de faire 24 mètres. J'ai déjà fait bitoul. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous que vous rentrez après à Chol HaMoed, vous êtes parti promener avec les enfants, vous rentrez à la maison, les enfants ils ont faim, maman j'ai faim, papa j'ai faim, dis bah allez va prendre quelque chose qui est dans l'armoire si vous n'avez pas fait 24 mètres. Donc votre fiston il va ouvrir l'armoire, il va trouver des choux à la crème, il va les manger. Donc c'est vrai que je suis pas au vert sur Balirae ou Balimatse parce que j'ai fait Bitoul, mais un autre problème technique, que si on laisse du Hametz dans la maison, alors les enfants ils vont venir, ils vont picorer à droite à gauche, pas simplement les enfants, même nous. Si on, imaginez-vous, votre cuisine, elle est complètement chamette. Alors, on va tirer un tiroir, ici, il y a les pâtes, ici, il y a du riz, hein, pour, pas pour le Tunisien, mais là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un problème de balai, on va manger. Soit continuer à demander. Alors, avance un peu, s'il te plaît. Monte un peu, s'il te plaît, Jean-Paul. Voilà. Vataam. Vataam, où il y a le petit bête. Vataam, shi chimirukan, fe mishar isureana. Mais alors, si c'est comme ça, alors il fallait dire plus que ça. Il fallait dire que chaque fois que j'ai quelque chose qui est interdit, je n'ai pas le droit de le laisser dans ma cuisine, puisque je vais arriver à le manger. Imaginez-vous que si quelqu'un, chas v'shalom, il a fait basar bechalav, par exemple, il a eu quelque chose, de la viande qui s'est mélangée avec du lait, chas v'shalom, il n'a même pas le droit de le laisser, il doit faire biour, il doit le jeter, le brûler. C'est pas comme ça, il a le droit de le laisser pour quelques temps, le temps qu'il évacue. Parce que là, on est obligé, comme on voit, faire 4 à mètres avec une bougie, chercher dans les coins et les recoins. Pourquoi on a été tellement méticuleux pour le chametz et pas pour les autres choses? Tosfot dit, Bataam shi chmiru kan fe milchar isurana, shelo yitzru levaram, mishum de chametz mutar kol hashana, velo ne'esar rak bepesach, velo bedile mine. Voilà le problème. C'est que le chametz, on l'aime trop. On adore le chametz. Imaginez-vous une vie sans chametz. Ça va être triste. Ça va être triste. On arrête nos yeux pour pleurer. Pas de gâteau. Et comment vous allez faire Shabbat? Pas de couscous. On peut pas. Comment on va gérer tout ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les hommes, on est trop habitués à chametz. Quand il y a quelque chose qui est pas cachère, du chazir, on va pas le manger. Basar bechalav, c'est dégoûtant. Ouais, des crabes, on va pas les manger. On n'a pas besoin de faire biou chametz, du 4 chametz. Mais par contre, lorsqu'on arrive au chametz, ça c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que premièrement, on est trop habitué avec lui. Et deuxièmement, Tosfot dit, quand la chana velo ne sa regle pesar, velo bedile miné. Le problème, c'est que pendant 7 jours en Israël, 8 jours en France, on ne mange pas. Mais après, on le mange. On le mange avant, on mange après. Rien que pendant, on peut pas le manger. Donc les gens, ils ont pas le temps de s'habituer. Ça, c'est pas cachère. C'est hyper cachère. C'est le hyper cachère. Mais je ne mange pas pendant 8 jours. Donc les gens, chas v'shalom, ils peuvent arriver à une erreur, chas v'shalom. C'est pour ça que les chachamim ont dit niet. Le chametz arroyce, en yiddish. Voilà le Rav Galinsky. Arroche dehors, on ne veut pas de chametz à la maison. Pas parce que si je le garde, je vais transgresser le lav, les lavim. Mais parce que si je le garde, je risque chas v'shalom d'en manger. Donc vous avez bien compris la machloket qu'il y a entre Rashi, on revient sur la Mishnah, la machloket qu'il y a entre Rashi et Tosfot. Si on vous demande demain matin, pourquoi on doit faire 4 chametz? Qu'est-ce que vous allez répondre? Ah ben, c'est facile. Rashi nous dit que Bdikat Hametz, c'est afin de ne pas transgresser le lave de la Torah, de balayer le matzé. Tosfot, il dit non, mais ça, c'était facile. On aurait pu faire Bitoul et terminer. On dit Kol Chamira et c'est terminé. Alors, pourquoi il faut le faire? Parce que les Chachamim, c'est pas Minatora, mais les Chachamim, ils ont instauré de ne pas le faire afin Chas v'Shalom de ne pas arriver à le manger. Bravo. Alors, on reprend la Mishnah. Kol. Alors, or l'herba asar, botrim et achametz. Donc, on a bien compris maintenant pourquoi, la nuit du 14, on doit chercher le chametz. Rashi, pour ne pas transgresser, Tosfot, pour ne pas le manger. À la lueur d'une bougie. Mais, évidemment, on va parler après longuement pourquoi la bougie, qu'est-ce qu'elle fait ici, la bougie. Mais pour l'instant, on accepte la Mishnah. Dit à Mishnah, kol makom shel machnissim bo chametz, et serbika. Mais évidemment, c'est seulement les endroits où j'ai pu, par mégarde, ou bien j'ai pu les déposer du chametz. Mais imaginez-vous, si vous avez un entrepôt, où vous mettez vos outils, et ça se trouve à Saint-Denis, je vous déconseille, mais disons, à Saint-Denis, et vous ne mangez pas là-bas. Il n'y a pas de chametz là-bas. Vous ne mettez pas. C'est un endroit où vous déposez votre voiture, vous revenez, mais il n'y a pas de chametz. Dans ce cas-là, l'autre réplique, il faut une chance que j'ai pu mettre à bas du Hametz. Alors la Mishnah nous dit, question-réponse. Donc c'est une Mishnah très très concise. D'ailleurs dans les Mishnayot, c'est pas écrit Ubema, mais c'est Lama. Alors pourquoi Amrush Teshurot Bemartef? Parce qu'on connaît la fameuse marloquette en Bechamay Bet Hillel, que lorsqu'on a une cave à vin, on doit vérifier, en tout cas, certes, les jarres de vin qui étaient entreposées dans la cave. Pourquoi? Mais qui c'est qui va manger? Quelqu'un, il va pas descendre en bas chez lui, dans sa cave pour manger. Donc pourquoi il faut Bedika? Bet Shammai, il a dit qu'il faut Bedika. Bet Hillel, il a dit, bon après, combien il faut être Bodek? On va voir dans quelques instants. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord qu'il faut Bedika, mais pourquoi? Alors, dit la Mishnah, question, et pourquoi les sages, entre guillemets, c'est qui ces sages-là en vert? C'est Bet Shammai et Bet Hillel. On dit de vérifier deux rangées de jarres de vin dans la cave, deux rangées. Réponse, question-réponse dans la même phrase, ma comme j'ai marnissé Bochamet, car il s'agit d'un certain type de cave dans lesquelles on a l'habitude de faire rentrer du Hamet. C'est-à-dire qu'il y a des caves dans lesquelles on entrepose du vin et jamais on rentre jamais là-bas, rien que pour quand on achète le vin, on le dépose, etc. Mais il y a des caves où on a l'habitude de manger. Pendant les repas, on envoie un serviteur, on envoie une servante pour aller chercher dans les caves, d'aller chercher une bouteille de vin, parce que voilà, on a des invités, on veut honorer ceci, on veut honorer cela, donc on va chercher une cave. Et des fois, la personne qui descend dans la cave, elle a encore son bout de pain dans la main. Et quand elle est chercher la bouteille, elle peut poser son morceau de pain, son sandwich sur une jarre, et prendre la deuxième jarre. Et entre-temps, elle a oublié de récupérer le morceau de pain qui traîne là-bas. C'est pour ça que le Chachamim m'a dit, ça s'appelle une utilisation. Bien qu'on n'utilise pas tous les jours, mais comme il y a une possibilité d'avoir entreposé à l'intérieur du Hametz, c'est interdit. Et maintenant, on va voir le Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai l'ombrim, j'te shurot, alpene, kol amertef. Bet Elombrim, j'te shurot, achitonot, shemaïdionot. Bet Shammai disent, combien c'est ces deux rangées-là? C'est quoi les deux rangées? Deux rangées verticales sur toute la largeur de la cave de vin. Et Bet Hillel disent, deux rangées externes, qui sont les deux rangées supérieures. Donc d'après la première avis, c'est même deux rangées du toit jusqu'au sol, une et deux. Alors que d'après Bet Hillel, c'est pas de, on va pas commencer à prendre le vin d'en bas, on peut prendre une jarre d'en bas, parce que si tu prends la jarre d'en bas, tout va tomber. Donc maximum, tu prends les jarres d'en haut. Donc tu prends les jarres en haut. Et donc, alors on doit vérifier rien que la rangée qui est supérieure, qui est juxtaposée au plafond. Et maximum, tu as déplacé un petit peu une jarre d'en haut et tu as pris celle qui était juste en dessous. Mais on n'a pas besoin de vérifier tout la face de la cave à vin qui se passe devant nous. Donc on a bien compris la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Dans la Gemara, on va donner plusieurs explications aussi comment ça se calcule le Shtei Shurot, mais pour l'instant on a laissé là. Allez, Rabotai, la première Mishnah a été étudiée. On y va. Gemara, la Gemara demande Mai Or, Ravuna Amar Nage, Rav Yehuda Amar Lele. Alors ici, maintenant nous allons étudier pendant un daf et demi de Gemara. C'est incroyable comment la Torah est trop belle, parce que on a un petit problème dans notre Mishnah. On dit Or le'ava asar botin hametz. Or dans la Torah, ça veut dire le jour. Il y a écrit Or. Et en nous, on sait très bien que l'abdicat hametz, ça se fait quand? La nuit. Alors pourquoi on dit ça? C'est-à-dire le'ava asar. Alors, c'est ça qui nous a posé ce problème. Et c'est pour ça que la Gemara, elle va essayer de défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que la journée, quand on dit or, c'est la nuit. Ah! La lumière, c'est la nuit. Eh oui, les Juifs savent tout faire. Ils savent transformer le jour en nuit et la nuit en jour. Ils sont trop forts, les Juifs. Moi, tu dis, la lumière, la lumière, non, c'est la nuit. Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, maintenant, il fait nuit. Comment il fait nuit? Regarde le soleil. Il fait nuit, je te dis. Les Chachamim savent faire ça. La preuve, c'est que vendredi après-midi, vous rentrez du travail, vous dites à votre patron, écoute, je dois partir, c'est Shabbat. Et Shabbat, Attendez, on est vendredi. Samedi? Samedi, tu ne vas même pas au travail, mais on est pas samedi. Non, mais nous, samedi, c'est d'accord, samedi soir, ça veut dire vendredi soir, mais toi, tu pars quand? Tu pars à 3h de l'après-midi? Mais 3h de l'après-midi, c'est pas encore le samedi. Oui, mais c'est, nous, Shabbat, c'est avant, c'est encore quand c'est le jour, c'est la nuit. Bon. En tout cas, on va essayer de défendre l'indéfendable que le mot or veut dire la nuit. Mais évidemment, on est tenté de dire que le mot or veut dire le jour. Donc ça voudrait dire qu'on va faire, on va inverser complètement notre Bdikat Hametz. Au lieu que notre Bdikat Hametz se fait le soir de la Bdikat Hametz, on va la faire le matin. Et d'ailleurs, c'est très, et en plus, c'est tellement vrai, si on réfléchit, parce qu'on est tellement habitué, on réfléchit pas tellement. Mais si on réfléchit bien, c'est tellement mieux de faire la Bdikat Hametz le matin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, de faire la Bdikat Hametz le soir, c'est très embêtant. Parce que vous faites la Bdikat Hametz et vous continuez à manger du pain. Donc, en quelque part, on fait la Bdikat Hametz et on mange du pain. Alors, attends quoi? Quand t'as fini tout le pain, tu fais la Bdikat Hametz. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que ça nous a tenté à dire que le mot or veut dire la journée. Mais après, un daf et demi de Gemara, la Gemara va dire, écoutez les amis, on est obligé de dire que le mot or veut dire la nuit. Alors, et même ceux qui ont voulu dire que c'était le jour, en vérité c'est pas vrai. Tout le monde se met d'accord que c'est vraiment la nuit. Il n'y a pas un avis, il n'y a pas un seul avis qui pense qu'on fait Bdikat Hametz le jour. La Bdikat Hametz se fait uniquement la nuit. Et maintenant, on va amener une batterie de questions. La première partie de la Gemara sera des questions sur les psukim de la Torah, les versets de la Torah. Et la deuxième batterie de questions, il doit en avoir à peu près une quinzaine de questions. Et la deuxième batterie de la Gemara, c'est sur les Mishnayot. Quand on utilise dans la Torah le mot or, est-ce que ça veut dire jour ou ça veut dire nuit? Et après, quand on a fini d'expliquer tout ça, on va dire, et dans les Mishnayot, quand on dit le mot or, ça veut dire jour et nuit. Et après qu'on a tout répondu, oui, ça marche pas tout le monde. Et après qu'on a tout répondu, on va arriver à dire, Rabotai, on se met tous d'accord, on va faire, au Se Shalom Bimromav, ou Ya Se Shalom Aleinu, Kol Israël, Bimromav, je vous demande pas de chanter cette chanson, hein. On va arriver à dire qu'il n'y a pas de Machloket. Et Ravuna et Rav Yehuda, les deux, ils disent que c'est la nuit. Donc, dans les mots de la Gemara, Ravuna Amar, Ravuna 1, c'est, il dit que c'est la clarté, c'est-à-dire la journée. Et Rav Yehuda Amar, il a dit, Lele, c'est la nuit. Kasalka d'Atar, des Manda Amar, Nage, Nage, Mamash. Manda Amar, Lele, Lele, Mamash. À ce niveau de la Gemara, on pensait que Ravuna, qui dit, d'ailleurs, Ravuna, après, il va changer d'avis, mais en tout cas, Ravuna, c'est pas qu'il a changé d'avis, qu'on a mal compris ce qu'il a dit. Ravuna, lorsqu'il a parlé, il parlait de la clarté. C'est-à-dire quoi, la clarté? C'est réellement dire la journée du, avant de faire, de brûler le Hametz, on fait l'abdika, on prend tout ce qu'on a retrouvé et hop, on jette au feu. Comme ça, lui, il a pensé. Et Rabbi Yehuda dit que la nuit veut réellement dire la nuit. C'est ça qu'on pensait au début. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui connaissent bien la Gemara, quand la Gemara dit ça, kasaka d'Atin, c'est pour donner un coup de main. Et en réalité, c'est écrit dans le Ritva que c'est pas en vérité la Gemara qui a parlé ici. C'est les Rabbanes Savorae. Les Rabbanes Savorae, ils nous vont, parce que quand on va attaquer la Gemara sans connaître cette intro, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils disent ici, la nuit, le jour, la nuit, tu comprends pas, de quoi on parle? Donc on fait comme une sorte d'intro qui a été écrit par la Gemara, pas par la Gemara, par les Rabbanim qui étaient juste après la Gemara, comme le Rav Sadia Gaon, comme le Rav Hai Gaon, comme le Rav Yenetroel Gaon, comme le Rav Yehuda Gaon, tous ces Gaonim, et ils ont écrit ce Kasaka Data pour nous aider à mieux comprendre. Alors maintenant, on y va. Première question. Alors vous allez voir sur l'écran, vous allez voir question 1, question 2, question 3. Donc pour l'instant, on va poser toutes les questions contre ce qui a l'air a priori étonnant de transformer le jour en nuit. Donc ce sera les questions contre Rabbi Yehuda, ce sera avec le Q1, Q2, question 1, question 3. Et après, des questions qui sont contre Ravuna, ce sera un Q rouge, mais avec un peu de bleu autour. Comme ça, vous comprenez, cette question, elle est pour lui, une question pour l'autre. C'est ma match, vous n'avez pas besoin d'aller au match, vous n'avez pas besoin de faire le foot comme ils ont gagné. Nous-mêmes, on va faire ici le match. Allez, Métive, on pose une question maintenant. 1-0. Rav Yehuda contre Rav, le PSG, pardon, contre l'OM. Non, Rav Shalom. Rav Huna et Rav Yehuda. Alors, on a posé la question à Rav Yehuda. Le verset suivant. Écrit au sujet de Yosef Hatzadik. Rappelez-vous, lorsqu'il a, il a renvoyé ses frères avec Binyamin, pour, en fin de compte, ils se sont retrouvés, les retrouvailles des frères, il a écrit, Aboker or, vanashim shulechu. Il a écrit dans la Torah, et le matin or, et les hommes furent envoyés. Donc il a attendu, Yosef, que le matin pointe, et à ce moment-là, il a renvoyé ses frères pour aller chercher Yaakov Avinu. En tout cas, ça c'était l'histoire du verset. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Le matin or. Aboker or. Le matin or. Donc on voit bien ici, nous voyons d'ici que le mot or est employé dans le sens jour. Aboker or. Donc on parle bien l'hébreu. On est des hébraïsants. Donc voilà. Alors question. Réponse de la Gemara, c'est que, écoutez bien, parce que ça va être tout le long de cette partie de la Gemara, c'est que le mot or, il est un nom et il est un verbe. Donc quand on l'utilise comme nom, c'est ça notre problème. Qu'est-ce que ça veut dire le mot or? Mais c'est sûr que le verbe or, c'est sûr qu'il veut dire lumière, léaïr. Quand je dis c'est pour éclairer, c'est clair, comme c'est le or, c'est clair, c'est pas chaud, que ça veut dire le jour. Tout notre problème, c'est comment définir le mot or en tant que nom, pas en tant que verbe. Alors la Gemara répond, mais ici, le mot or, c'est pas un mot, c'est un verbe. Donc s'il y a un verbe, il n'y a pas de marloquette entre Ravuna et... c'est pas une marloquette entre Rav Yehuda et... C'était qui le premier? Et Ravuna. Il n'y a pas de marloquette. Dit la Gemara, il dit, mi ketiv a or boker, a boker or ketiv, kemandamar safrana. Est-il écrit dans le verset, et le or c'est le matin? Non, il a écrit le matin or. Le matin, c'est éclairé. Le verset, donc, peut être compris comme... Quelqu'un qui dit le matin c'est illuminé. Donc on est hors sujet. Nous on pensait trouver un verset pour définir le mot or en tant que nom. Et on a trouvé un verset qui définit le mot or en tant que verbe. Donc c'est pas une question. Je suis désolé, mais c'est pas une question. Donc un partout. Deuxième question. Avant deuxième question. Agma a dit bon, en fin de compte, si c'est comme ça. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il a attendu le matin? C'est en parenthèse. Hein. Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire qu'il a attendu le matin pour envoyer ses frères? Il aurait pu les envoyer aussi fin d'après-midi, en soirée. Quel est le chidouche? En parenthèse, la Gemara dit Kuderav Yehuda Amarav, Damarav Yehuda Amarav, Leolam Ikenes Adam Bechitov, Vietse Bechitov. Et le verset nous apprend ce que Rav Yehuda dit au nom de Rav. Un homme qui voyage, lorsque vous prenez Elal, doit toujours entrer là où il a prévu de passer la nuit quand il fait encore jour et partir le matin quand il fait déjà jour. On sort jamais de sa maison la nuit. Parce que la nuit, dit Tosfot, Rashi, Tosfot et le Ritva. Trois explications. Première explication dans Rashi, parce qu'il y a des mazikim. Tosfot nous dit, parce qu'il y a des brigands, Hamas et compagnie. Et troisième explication, dit le Ritva, parce que il y a ce qu'on appelle Beshata Sakana. Alors, un homme qui est en Sakana, c'est un moment, il y a dans la nuit, c'est un moment de din. Le jour, c'est Rahamim. Et la nuit, c'est din. Donc, on sort jamais la nuit. Pourquoi? Parce que, premièrement, peut-être Rav Shalom, il y a des accidents. Deuxièmement, on peut être agressé. Et troisièmement, c'est le moment du din. Donc, dit la Gemara, Aboker, or, le matin, quand vous allez au ski, ou bien à Deauville, partez le petit matin. Ne partez pas à 2h du mat. On ne sort pas à 2h du matin. On reste tranquille. Et quand le matin il se lève, il y a là, on part. Voilà ce que la Gemara nous apprend. Deuxième question. Question 2. Contre Rav Yehuda. Ketiv. Ukeor boker Israr Shemesh. Il y a un verset qui parle de ce qu'on appelle David Ameler. David Ameler, rappelez-vous, il était poursuivi par ses ennemis, et écrit là-bas, ou que or boker, Yisrach Shemesh. Et comme or matin, le soleil brillera. Donc, David Améler, il était un homme qui était pourchassé, poursuivi par son beau-père, par le Bedin, Shaul voulait le tuer. Et donc, il pensait, lui, chaque jour, il pensait mourir. Et dans Tehilim, ça c'est pas un Sefer Tehilim, mais c'est écrit dans le Sefer Melachim, c'est la même chose. Il dit, et comme or matin, le soleil brillera. Moi, la nuit, elle est devenue pour moi comme jour. Hachem m'a fait tellement de miracles que même la nuit s'est transformée en jour. En tout cas, ça c'est le contexte du verset pour vous comprendre. Et écrit dans le verset, on va maintenant faire une étude des mots, ou que or boker Yisrach Shemesh. Et comme or matin, le soleil brillera. Nous voyons d'ici que or est employé dans le sens de jour. C'est exactement la même question, mais la Gemara, elle savait qu'il y avait la même réponse. Mais simplement, chaque verset, on essaye de trouver peut-être dans ce verset, il y a plus de force que dans le premier verset, mais la même réponse, on peut la donner. La Gemara répond, est-ce qu'il est écrit or matin? Il est écrit ou qu'il est or matin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, c'est pas un nom, mais c'est un verbe. Que le matin, c'était, quand le matin, c'est, il s'est, quand le matin, il y a eu la lumière du matin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce que dit David Améler. David Améler, il nous dit quelque chose d'extraordinaire et c'est un moussard pour tout à chacun. Des fois dans la vie, on imagine que rien ne va plus. Adve Shalom, on a perdu tout espoir, on va y jamais y arriver, on a tout essayé, ça marche jamais, etc. Et dit David Améler, et quand le matin s'illumine, bien qu'alors obscurité règne tout autour dans ce monde, ce sera comme dans le comme. Ce sera comme quand le soleil brille pour les justes dans le monde à venir. Dit David Améler, des fois on imagine que c'est la nuit. La nuit on ne voit pas, c'est la nuit. Mais David Améler dit, mais tu sais, Bezrat Hashem à l'époque du Mashiach, c'est nous bémira béamenu, amen, il fera Hashem que la lumière du matin, elle sera aussi puissante que lorsque le soleil est au zénith. Donc Hashem, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem va faire que la lumière pour les tzadikim, Hachem dit, n'aie pas peur mon fils, même si tu vois l'obscurité devant toi, sache que moi Hachem, j'ai réservé, mettez en silencieux vos téléphones, j'ai réservé pour toi, Hachem dit à David Améler, et toi et tous les tzadikim, je t'ai réservé un matin qui va s'illuminer, avec le verbe illuminé et pas le nom illuminé. On aurait pu. Oui. C'est exactement ça. C'est pour ça que la Gemara a rajouté une deuxième couche par rapport à la première, parce que ici c'est pas pareil que dans la première couche. La première couche c'est facile à écrire. Ukeor boker, c'est écrit boker or, c'est écrit ukeor boker. Mais même ça, la Gemara nous dit, et même ce verset, c'est pas une preuve formelle. Troisième question, métiver. Alors là, ça devient encore plus difficile. Ça devient beaucoup plus difficile. Les questions, ils vont en crescendo. Chaque fois, une question encore plus difficile. On a toujours dit c'est substantif, on dit que c'est un nom, là on parle que c'est un verbe, mais là ça devient plus difficile. Dans les versets, il y a écrit, on a opposé encore une fois à Rabbi Yehuda le verset suivant. Et Hachem a appelé, Vaikra Elohim, la or, yom, or. Premier verset de la Torah, on ne l'a pas étudié, on l'a étudié en troisième position, parce qu'on a attendu pour que, voilà, c'est par palier. A priori, Alma, or, yom, ou. Hachem, il a appelé, c'est écrit, là on parle d'un nom, il a appelé le mot or, yom. Donc c'est écrit une fois, c'est pas un verbe. On n'a pas parlé d'un verbe. On est en train de parler, vaikra elokim la or. Ou ke or, on peut dire oui, et le jour s'est illuminé. Ok, mais ici c'est écrit vaikra, Hachem, il a appelé le mot or, yom, jour. Donc a priori, là c'est ma match 3-0. Non, on était deux partout, là c'est ma match, c'est le but qui fait. Il a Gmara. Arikama, mais non, nous on se décourage jamais. Arikama, la meir uba kera oyom. Voici ce que veut dire le verset. Le temps où la lumière arrive, il a nommé jour. C'est pas, Hachem, encore une fois, c'est pas le moussag, c'est pas le mot or. Ici, il ne veut pas dire lumière. Il dit le temps où ça s'éclaire. Or, ici, Vaikra Elokim, la or, c'est-à-dire le moment où la lumière arrive, la lumière éclaire, encore une fois, c'est un verbe, il a nommé jour. Alors, Agma dit, alors, mais si c'est comme ça, mais alors, et la Me'ata ou la Chosha Kara Laila, et alors, si c'est comme ça, le verset de la suite, il dit, et l'obscurité, il appelait nuit, ça voudrait dire quoi? Ou bah, et Kara Laila, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps où l'obscurité arrive, il a nommé nuit. Donc ça veut dire que, on parle pas de jour et de nuit. On parle que dans le monde, on remarque la lumière qui éclaire et la nuit qui s'obscure. Voilà, la nuit qui amène l'obscurité. Alors, pourtant, Ve'akai Malan de Atset Akochavi Mimamao. Et pourtant, nous avons une règle selon laquelle, jusqu'à l'apparition des étoiles, c'est encore jour. Mais d'après ça, dès que le jour, il pointe, ça s'appelle Yom, ça veut dire du Hamouda Shachar. Mais la nuit, c'est pas que dès que le Rocher arrive, c'est la nuit, c'est pas vrai. Parce que c'est pas symétrique. Le jour, c'est Hamouda Shachar. Et la nuit, c'est Tzeit HaKochavim. Mais d'après ton explication, qu'on parle pas du jour et nuit, mais on parle que la lumière se pointe ou bien la lumière disparaît, ça devrait dire, c'est pas parallèle, parce que pointer la lumière, c'est Hamouda Shachar, alors que pour que la nuit arrive, c'est Tzeit HaKochavim. Alors comment on peut comprendre Achika Amar? Voilà l'explication de ce verset. Écoutez bien. Achika Amar, Kariyera Hamana le Neora, ou pagde a mitzvata d'imama. De carrière a hamana le chashocha, ou pagde a mitzvata de laïla. Voilà plutôt ce que le verset veut dire. Hachem a appelé la lumière et lui a ordonné de servir pendant le jour. Et Hachem a appelé l'obscurité et il lui a ordonné de servir pendant la nuit. Donc en réalité, quand on dit yom, Laïla, kara yom, laïla, c'est pas que le or c'est yom, ou bien le laïla c'est laïla. Non, le mot or ici, il veut dire qu'il lui a donné Hachem cette lumière qui pointe au Hamouda Shachar. Hachem, il lui a donné, il dit toi, cette lumière, je te donne les mitzvot que tu dois faire pendant le jour. Voilà, cette lumière là, les Juifs, ils devront faire les mitzvot du jour. Ça, cette obscurité, les ministres vont faire les mitzvot pour la nuit. Quand est-ce qu'on va lire la Megillat Esther? On lit Tzeit HaKochavim. Quand est-ce qu'on fait Kiddush pour le soir du Pessah? On fait Tzeit HaKochavim. Quand est-ce qu'on fait Sfirat HaOmer? Tzeit HaKochavim. Donc voilà comment la Gemara dit. Donc c'est trois questions qui ont été répondues. Maintenant, on change d'équipe. Maintenant, comme j'ai dit, c'est violet avec du rouge autour. C'est une question contre Avuna. Mais t'y vais, allélu, kol korvé or. Il y a écrit, louez-le toutes les étoiles de or. Korvé or. A priori, nous voyons d'ici que le mot or est employé dans le sens de nuit. C'est quoi korvé or? Korvé or? C'est quoi korvé or?
Étoiles de jour.
Étoiles de jour? Ça existe des étoiles de jour? Est-ce qu'on voit les étoiles de jour? C'est quoi korvé or? Les étoiles de nuit, alors. Donc on voit que le mot or, ça veut dire la nuit. Les étoiles de nuit. Parce qu'il n'y a pas d'étoiles de jour. On voit jamais les étoiles. La nuit, on peut la voir, mais ça ne dit pas de voir les étoiles le jour. Alors pourquoi la Torah dit korvé or? Donc on voit que le mot or, en tant que nom, veut dire nuit. Comment? Ah, bravo. Bravo. Ah, c'est l'étoile lumineuse. Ah, Dagmar répond comme toi. Mais Dagmar dit, alors ça veut dire quoi? Je pose la question. Si, donc, on doit louer Hachem, les étoiles lumineuses et les supernovas, non. Non. Non, eux, ils n'ont pas besoin. Eux, ils disent, non, moi, tant qu'on ne me voit pas, je m'en fous. Alors, ça ne marche pas. Donc si tu dis lumineuse, ça veut dire que Hachem, il a dit, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle les lumières, les étoiles qu'on voit. Il y a des étoiles qui sont mortes, des étoiles mortes. Il y a toutes sortes d'astres. Et ceux-là, ils n'ont pas besoin. C'est pour ça que la Gemara dit qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut de la nuit. La Gemara dit, Arikamar, Allelu, Kol Kochavim Amerim. Voilà la réponse, comme tu as dit. Voilà ce que le verset dit. Louez-le, toutes les étoiles qui éclairent. Elle a dit, mais si c'est comme ça, ça ne marche pas. Et là, Meata, Kochavim Amerim, ou des Baouch Vouché, Shinan Mirim, le Baouch Vouché, Vaketim, Allelu, Kol Sevaav. Alors on va dire quoi? Les étoiles qui éclairent doivent louer Hachem. Mais ceux qui n'éclairent pas ne doivent pas louer Hachem. Et pourtant, c'est pas exact, car dans la Torah, c'est écrit, louez-le, toutes ses armées, tous les astres. Et là, Akamashmalan, voilà la réponse. En vérité, tous les astres doivent remercier Hachem. Mais alors, qu'est-ce que la Torah nous dit Korveor? Pourquoi la Torah nous dit Korveor? Ça veut dire la nuit.
Elle aurait dû dire
Korve. Voilà, c'est ça, exactement. Alors pourquoi il fallait dire Korveor? Ça veut dire, Korveor, ça veut dire la nuit. Donc, c'est contre Avuna. Dit, non, Korveor, ça veut dire le jour. Alors, si le jour, alors, c'est bon, c'est deux jours. Non. Mais Kochavim, qui donne de la lumière, et eux, ils ont quelque chose de particulier, eux, par rapport aux autres. C'est que, voilà qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces Kochavim, par rapport aux autres. Que la lumière des étoiles est appelée or. C'est ça qu'on veut nous apprendre. On veut nous dire, si quelqu'un, les manavkamina, quelle est la conséquence pratique qui en découle? Les noder minaor. Imaginez-vous que quelqu'un, il a dit, je prends sur moi un neder, konamalai, que je ne veux pas profiter de lumière. Je veux pas de lumière. Je veux vivre dans l'obscurité. Un fou furieux. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit comme ça. Alors maintenant, évidemment, il n'a pas le droit de tirer profit du soleil, il n'a pas le droit de tirer de la lune, il n'a pas le droit de tirer de l'électricité, il n'a pas le droit de tirer de profit de quoi que ce soit. Mais, est-ce qu'il a le droit de tirer profit des kochavim? Oui ou non? En réponse, ça dépend. Ceux qui éclairent, t'as pas le droit. Et ceux qui n'éclairent pas, t'as le droit. Ben oui, parce que tu ne vois pas. C'est facile. Mais en tout cas, ceux qui éclairent, t'as pas le droit. Je dis non, mais c'est pas de la lumière ça. Combien on peut déjà profiter d'une lumière? Eh ben oui, ça s'appelle aussi une lumière. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'à Paris, on voit pas on ne voit pas les étoiles, mais ceux qui sont dans la campagne, et ils lèvent les yeux vers le ciel, et ils voient la voie lactée, et ben mamash, ça fait de la lumière. Mamash, de la belle lumière. Donc, c'est ça qu'on nous dit. Anoder mina or, asur beoran shel kochavim, celui qui a fait le vœu de ne pas tirer du mot or, n'a même pas le droit de tirer profit de la lumière des étoiles. Allez, maintenant, on passe à l'autre. On repasse à la quatrième question contre Rav Yehuda. D'accord? Et on amène cette fois-ci un verset dans Iov. Iov, rappelez-vous, il se plaignait énormément parce qu'il a eu tous les malheurs de Iov, comme son nom l'indique. Alors écoutez bien ce qu'a dit Iov. Les or yakum rotse arik tal ani vevion belaila yekeganav. Dit le verset. Les or, c'est-à-dire au moment du or, le meurtrier se lève, tuant le pauvre et l'indigent. Belaila, et la nuit, yekeganav. Il est comme un voleur. A priori, la Gemara dit, attends, mais là c'est clair. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la chose au contraire. On a dit, la nuit, il se déguise comme voleur, et le matin, c'est un meurtrier. Donc, a priori, on a mis la chose à son contraire. Nous voyons d'ici, du fait qu'on a mis, en fin de verset, et la nuit, il est comme un voleur. Donc, on voit que le début du verset qui a écrit le mot or, est employé dans le sens du jour. Donc, on voit que le jour, c'est or, et Laïla, c'est la nuit, comme nous, on parle, comme ça, or, c'est le jour. Et Laïla, voilà, un verset, mamach, mieux que ça, on peut pas faire. On l'a laissé pour la fin, c'est le dessert. La Gemara dit, non, là-bas aussi, c'est pas une preuve. Qu'est-ce qui va trop, ça s'allume, ça s'éteint?
Non, c'est Jean-Paul Fischer.
Ah, c'est Jean-Paul, pardon, excuse-moi. Atam, achika amar. La Gemara dit, voici ce que veut dire le verset. Le verset, il vient nous apprendre un chidouche. Rappelez-vous, on avait appris ça dans la Torah, pour ceux qui ont étudié Maaser Sanhedrin, ils connaissent ça, ce qu'on appelle le ba bemachteret. Celui qui va creuser un tunnel pour un tunnel souterrain, pour voler un pauvre juif. Alors la Torah nous dit que le voleur qui rentre, qui fait éruption dans l'appartement d'une personne, eh ben lui, il est venu voler de l'argent, de l'or, des bijoux. Mais en réalité, c'est très bien qu'il peut se faire rattraper. Et il a pris en considération que si jamais il est pris en flagrant délit, eh ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre. Qu'est-ce qu'il va se défendre? Il va tuer la personne. Voilà, un voleur, il sait quelque part. Moi, je suis pas un meurtrier, mais si jamais ça arrive, ben j'utiliserai mon arme. Je le tuerai. Sauf, alors donc la Torah nous dit à celui qui se lève pour te tuer, alors toi, tue-le. Parce que donc si le balabaït, le propriétaire de cet appartement, de cette villa, il voit un voleur qui débarque, donc il sait très bien que quelque part, il est prêt à le tuer. Donc tu ne vas pas attendre qu'il va te tuer. Toi, si tu te trouves en face de lui, et dégaine avant. N'attends pas qu'il tire en premier. Vous savez, les Anglais, la guerre des 30 ans. Tirez-vous en premier, les Anglais. Les Anglais, ils se disaient, plus de le chavot, qui c'est qui va mourir en premier? Non, il faut tirer avant. Alors, mais il y a une exception. Exactement. Il y a une exception si... Attendez, c'est pas pareil. C'est le père et le fils. Donc, relation père et fils, elle est très... Freud, il avait tout à fait... Il avait tout faux. Il y avait la relation entre le père et le fils. Alors, le père, lui, il adore son fils. Quoi qu'il arrive, il a dit, moi, jamais je tuerai mon fils. Même s'il me tue, tant pis, moi, je ne le tuerai pas. Alors que le fils, il a moins pitié que le père. Donc, il dit, si jamais mon père, il s'oppose à moi, eh bien, je lui tire une balle à la tête. Shem Erachem. Alors, dit la Torah, c'est ça ce que le verset il est en train de nous dire, dans les mots. Ipshita larmilta keneora, si pour toi... Il est évident, comme la lumière, d'un nefashot kati, qui est venu pour prendre des vies. C'est un meurtrier, et la victime doit être sauvée au prix de la vie de l'agresseur. C'est-à-dire, si c'est un homme quelconque, eh ben, tu tires en premier. Évidemment, quand il est en danger, hein, on parle pas, s'il se cache dans la cave, le propriétaire, il va le tuer. Mais si tu es en doute, parce que tu as en face de toi ton père, tu dis, attends, il va me tuer mon père ou pas? Il me tue, mais il ne va pas me tuer. Eh ben non, il ne va pas me tuer. Bon, peut-être il va me tuer. Mais non, il ne va pas te tuer. Donc tu as un doute. Toi, il dit, tu n'as pas le droit de tirer parce qu'il ne te tuera pas. Il ne va pas tirer en premier. Et donc, ni en premier, ni en dernier. Donc là, il a Et donc, tu n'as pas le droit de te défendre et de tirer en premier. Bravo. Donc on a bien compris ce verset. Encore un autre verset, Rabotai. La question numéro 5. Métive yarchirou korve nishpo ikav le or ve'en ve'al yire be'afrafe shahar. C'est un verset que David Amel... non, c'est encore Iov qui écrit. Il dit la chose suivante. Que s'obscurcissent les étoiles de mon soir. Il aspire au or, mais rien. Qu'il ne voit pas la lueur de l'aube. Why? Un verset terrible. Iov, il y a des versets là-bas dans Iov. Wow, la restreine. Il nous fait là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Donc, a priori, David, donc, Iov nous dit que s'obscurcissent les étoiles de son soir. Why? Que même les étoiles, on a dit qu'il y a un peu de lumière dans les étoiles, même les petits chuels de lumière, ça, ils deviennent tous des supernovas. Il n'y a plus de lumière. Qu'il aspire au or, que quelqu'un, il attend que la journée apparaisse, eh ben, rien, pas de journée, sera toujours l'obscurité. Qu'il ne voit pas la lueur de l'aube. Jamais qu'il ait le droit de voir avec ses yeux, même pas le shachar, donc l'aube. Donc la Gemara dit, miteka marikav la or va'in, alma, or imamahu. Ben, c'est clair dans son verset, il aspire le or, mais rien. Il aspire pas la nuit, il est dans la nuit, il aspire le or. Donc le or, ça veut dire la nuit, ça veut dire le jour. Agmar répond aussi, là-bas, Job maudissait son destin, il disait que la volonté d'Hachem soit que cet homme espère voir la lumière et ne la trouve pas. Dans les mots, Atam milat ou dekala itle, Iov le mazale. Iov, il se maudissait lui-même. Amar, yerava, que la volonté d'Hachem soit. Des lispe argavra, que moi, il parle de lui-même, que cet homme-là espère, l'inéora voit la lumière, velo l'irchehe, et il ne la trouvera pas. Encore une fois, c'est la même chose, c'était pas un nom, mais si, ça, on parle d'un verbe. Continuons. Sixième question. Metive vomer a rocher ishufeni, velaïla orba adanim. Vous connaissez tout seul, la question et la réponse sont toujours la même chose, donc c'est facile, il y a un qui connaît les versets. Donc, dit la Gmara, maintenant on revient, encore une fois, sixième question contre Rabbi Yehuda. Je disais, seule obscurité m'enveloppera, mais la nuit est devenue or pour moi. Ah, c'est un beau pasouk ça. Et la nuit est devenue lumière pour moi. Donc là, c'est sûr, la nuit est devenue nuit. Tu vois, la nuit est devenue nuit. Si, écrit, la nuit est devenue or. Donc ça veut dire que le or, ça veut dire jour. Donc or est devenu dans le sens de jour. Réponse de la Gmara. Non, là-bas aussi, ce que David veut dire, c'est comme ça. Seule l'obscurité m'enveloppera, mais dans le monde à venir qui est semblable au jour. Moi, je pensais que l'obscurité m'enveloppera même dans le monde à venir. Parce que rappelez-vous David Ameller, le pauvre, il pensait que Hachem va le Shalom karet dans l'Olam Hazé et dans l'Amaba. Il pensait qu'à faute, à cause de la faute de Batsheva, Hachem il va le retrancher de Eretz Achaim. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Moi, je pensais, David Améler, il disait, moi, je pensais que l'obscurité m'enveloppera même dans le monde à venir. Même quand j'aurai Olam Haba, j'aurai règne du Rocher là-bas, qui est, lui, jour. Mais maintenant, je me suis rendu compte que Hachem, il m'aime. Et même si quelqu'un a fait une Avera, parce que David Améler, il n'a pas fait d'Avera. Mais les gens, ils imaginent qu'il a fait une Avera. Et lui, il a montré aux gens que même la personne qu'on imagine qu'il avait l'avéra, il est Baal Tshuva. Pourquoi Hachem l'a créé David Améler? Il n'avait pas de vie David Améler. Qu'est-ce qu'il avait? Il ne devait pas vivre David Améler. C'est 70 ans de cadeau de Adam Arishon. Je lui ai donné 1000 ans, Hachem, il lui a dit, tu sais quoi, je te donne 70 ans de ma vie pour David Améler. Il lui a appris, dit, toi tu dois vivre pour une seule chose, pour apprendre aux humains que ça existe la Tshuva. Même une personne qui a l'air qu'a priori dit, ouais, t'as vu combien de averot t'as fait, t'es nul, tu vaux plus rien, ça sert à rien, n'essaye pas, tu vas pas y arriver. Eh ben, Hachem, il fait que même ce monti qui est semblable à la nuit est devenu lumière pour moi, il s'est éclairé. La nuit du Olam Hazé, pour moi, elle est devenue lumière quand le Olam Haba. Et le Rocher que je pensais qui était dans Olam Haba, je pensais que j'allais avoir ça, Hachem il a dit, tu ne crois pas ça. Donc on a bien compris que ce que David Améler a voulu dire dans ce verset. D'accord. Maintenant, on passe à la batterie des questions. Les psoukim sont terminés. Celui qui a bien compté, combien il y avait de questions en tout sur les psoukim? Hein? 7. Alors 6 contre Rabbi Yehuda et une question contre Ravuna. Donc on était 7. 7 questions. On était 7 questions. Maintenant, on va passer aux questions contre la Mishnah. Mais cette fois-ci, les Mishnayot. Donc 6 contre Rav Yehuda, un seul contre Ravuna. Donc dans les psukim, on a une majorité de psukim qui tendent vers Ravuna. Maintenant, dans les Mishnayot, on va faire une batterie de Mishnayot, et ça va tendre vers plutôt, ça va tendre pour Rabbi Yehuda. Et toutes les questions vont être contre Ravuna. Allez, on va faire la première Mishnah, mais en réalité, qu'il y a deuxième question contre Ravuna. On a posé à Ravuna la Mishnah suivante. Écoutez bien, parce que ça, c'est une question de malade. On doit chercher le Hametz, écrit, Metive Rabbi Yehuda Omer, Botim. Attendez, il faut bien comprendre qu'il y a Rabbi Yehuda et Rav Yehuda. Ne mélangez pas, les amis. Quand on dit Rav Yehuda, c'est l'Amora. Quand on dit Rabbi, c'est le Tana. Comment on peut reconnaître si c'est un Tana ou bien c'est un Amora? S'il est Rabbi, le Rabbi, alors lui, il est un Tana. Lorsqu'il est Rav, il est un Amora. Donc on va poser la question de Rabbi Yehuda, cette fois-ci, c'est un Tana. Il n'y a aucun Amora qui peut se permettre d'aller à l'encontre d'un Tana. Si on a un Tana qui dit ça, tu ne peux pas te permettre de dire le contraire. Donc, si on a mené une Mishnah qui contredit soit Rav Yehuda, soit Ravuna, c'est échec et mat. n'y a pas de dire ah, non, non, mais moi, il n'y a pas. Si tu ne peux pas répondre à cette question, tu rends les armes. Tu démissionnes. Tu te mets sur la touche. Donc il faut à tout prix préserver le Ravuna et Rav Yehuda de toutes les Mishnayot. Donc les versets, on s'est arrangé. On a dit que tous ces versets-là, en réalité, ils sont des verbes et pas des noms. Mais maintenant, on va apporter des Mishnayot. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a dans la Mishnah. Metive Rav Yehuda Omer, Botkim et Hametz, le Or l'Arba Asar, ou Berba Asar, Shacharit, ou Bishat Abiyur. Donc on a trois possibilités de faire Bikat Hametz. On le fait soit hors du 14 Nissan, si on ne l'a pas fait, on peut faire des récupérations le matin du 14, et si vraiment on ne l'a pas fait le matin, on peut même le faire au moment de l'élimination. Donc a priori, ici, il y a trois temps. A, B, C. C'est quoi c'est A, B, C? On nous dit le soir, le matin, et juste avant de brûler le Hametz. Donc on a bien compris, quand on dit hors, ça veut dire quoi?
Le soir.
Le soir, donc voilà. C'est clair, net et précis, ça c'est ma mère, c'est une mishnah de malade. Et la Gemara dit, la question elle est là. Mideka Rav Yehuda, Botkem Or le Rabba Asar, ou Berabba Asar, ou Shacharit. Puisqu'on a dit, on fait le soir et on fait le matin, quand le mot Or, donc il veut dire, bien, on a bien compris que le mot Or veut dire la nuit. Alma Or Urtaou. Le mot Or veut dire dans le sens de nuit. Et la Gemara, qu'est-ce que la Gemara répond? Allez, qui c'est qui veut me donner la réponse? Qui va la réponse là? C'est quoi le or alors? Comment il va s'arranger? Comment il va s'arranger Ravuna là? Comment il s'arrange? Écrit. On devra abdika le soir. Si on n'a pas fait, on fait le matin. Si on n'a pas fait le matin, on fait allez à midi avant de brûler le Hametz. Nous? Alors comment tu vas t'arranger? Hein? Comment? À l'heure de Shabbat, c'est le matin. Alors, je répète, il y a une Mishnah, citation d'un Tana. On fait la Bdikat Hametz le soir. Si tu n'as pas fait, tu fais le matin. Si tu n'as pas fait le matin, tu fais à midi. Alors le mot or, c'est le soir. Le or, où tu vas le mettre? C'est quoi le or, alors? C'est quoi le mot or? Elle a dit la Gemara. Écoutez bien ce que la Gemara a dit. Shmamina échec et mat. Il n'y a pas de réponse. C'est fort, hein, la Gemara, elle est forte. Hein. Vous savez, elle n'a pas honte. Que moi j'aurais dit, bon, le pauvre Ravuna, allez, trouve-lui un petit truc sympa, quoi. Je lui dis, bon, allez, bon. Non, c'est vrai, mais. Non. Cette Mishnah, c'est fini. C'est fini. La vérité, c'est que c'est une Mishnah qui est sans équivoque. Cette Mishnah, elle vient nous apprendre que le mot or veut dire nuit. Et c'est déjà le déclin, le déclin de Ravuna. Mais à la fin, on va dire en vérité, parce que moi, elle sait comment ça, je n'ai pas peur. La Gemara dit qu'en vérité, Ravuna, jamais il a voulu dire que le mot or, ça veut dire le matin. Mais pour l'instant, on a dit kasakadatin, on pensait comme ça. Donc on a mené maintenant 7 psukim, une braïta, et arrivé à la 8e preuve, on a dit, ça y est, échec et mat. Mais la Gemara dit, mais attends, mais tu sais, pour faire KO, pour mettre quelqu'un à KO, ça ne suffit pas de faire un échec et mat. Imagine-toi que tu as mis, donc tu as le roi, tu mets la reine, tu mets le fou, tu mets
le chevalier.
Tu, combien d'échecs et mat tu lui as fait? 5 échecs et mat. Eh bien, l'Agma dit, attends, on va te faire 5 échecs et mat à toi. On va te régler le compte. Ah oui, ça, bravo, c'est une très bonne question, l'Agmara l'a demandé, quand le Rav Zerbib, il va faire la suite de le DAF suivant. Garde, ne pars pas, t'auras ta réponse. L'Agmara a dit, alors on va continuer. Ravuna, tu as déjà reçu un échec et mat, donc ton roi, il est bloqué. Mais je l'ai bloqué avec la tour. Ouais. Maintenant, je vais te bloquer avec le fou. 2 fois échec et mat. Regardez bien, on va voir.
Échec.
Peut-être que
échec.
Lui.
C'est échec.
Échec.
Et mat, c'est quand on a fait toutes les possibilités.
Voilà, dans celle-là, c'est, on a fait toutes les possibilités. On a fait échec et mat. On a fait échec et mat. Mais je te dis, tu peux échec et mat. Je te dis échec et mat avec trois pièces. Donc tu ne peux pas bouger parce que, pour un moment, il est attaqué par le fou, par lui. Tu as mis tout et en un instant, il a eu 5 attaques en même temps. La première fois, on a fait un échec et mat. C'est pas échec, on a fait échec et mat. Justement, on va arriver dans quelques instants, on va dire ça qu'on a fait. On a dit pour l'instant, kasakadatin, parce que nous, on avait pensé que c'est ça qu'il a voulu dire. À la fin, il a dit, écoutez les amis, vous m'avez fait 5 échecs et mat, mais je vous dis la vérité, vous avez rien compris ce que j'ai dit. Vous comprenez même pas ce que je parle, vous posez des questions nulles. J'ai jamais dit ça. Écoutez, ouvrez vos oreilles, comprenez ce que j'ai dit, et à ce moment-là, vous pouvez me poser des questions. Mais vous posez une question fictive. Vous avez imaginé que j'ai dit ça, et vous avez commencé à me bombarder de questions. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit. Donc, en quelques instants, on va expliquer ça. Alors, pour l'instant, on était, pour l'instant, dans la troisième question contre Ravuna. On a posé à Ravuna la bréta suivante. Écoutez bien. Vous savez tous que le 14 du mois de Nissan, on doit faire l'abdicat Hametz. Mais la journée du 14 du mois de Nissan, elle est très particulière. La journée de 14 de Nissan, elle est très particulière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh ben là-bas. Bon, je transpire. Ah, d'accord. La journée du 14 Nissan, elle est très particulière. C'est que c'est une journée moitié kadosh, moitié chol, moitié kodesh. C'est une drôle de journée. D'ailleurs, on va apprendre ça très longuement. Ça veut dire que jusqu'à Khatsot, c'est on mange du pain. À partir de Khatsot, la Torah, on mange plus de pain, on mange pas non plus de la matzah. Donc on est dans une situation un peu exceptionnelle. Vas-y, finis comme ça dérange. Vas-y. C'est bon? Alors, écoutez bien. Cette journée-là, elle est réservée pour le Korban Pessah. Pour le Korban Pessah. Parce que tous les Juifs, ils ont une mitzvah de monter à Yerushalayim pour approcher le Korban Pessah. Donc, les Chachamim ont dit, imaginez-nous un instant qu'on va laisser les gens vaquer à leur occupation. Ils vont aller dans leur bureau, ils vont travailler, etc. Et le Korban Pessah, tu es au chômage? On a dit après, c'est après, fini à midi, après 2h, 14h, 15h, 16h, et ton Korban Pessah. Donc les Chachamim, ils ont dit que le jour du 14, en tout cas c'était ça, c'était comme ça que ça marchait à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, mais en tout cas, que tout le jour du 14, on ne travaille pas. Pourquoi? Pas parce que c'est interdit de travailler, c'est pour te mobiliser pour faire les préparatifs de la fête de Pessah. Maintenant, on veut cette journée du 14, on l'a interdit au travail pour que les gens puissent vaquer à leur commande Pessah, faire l'obdikat Hametz, Biou Hametz, préparer le Seder, préparer les Matzot, préparer le Kiddush, pour faire tout ça. Donc maintenant, à partir de quand on n'a plus le droit de travailler le 14 du mois de Nissan? Alors il y a une marloquette. Mais Matay Arba Asar Asur Bem Asiat Melacha. À partir de quand le travail est interdit le 14 Nissan? Alors il y a plusieurs avis. Premier avis, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, à partir du or. Mishata or. À partir du or. On ne sait pas que c'est à partir du or. Rabbi, on va essayer par rapport aux Zotana, on va essayer de le placer par rapport à d'autres avis, où il se positionne. D'après les autres moments où comment c'est interdit, on pourra définir qu'est-ce que ça veut dire le mot or. Rabbi Omer, Mishata Netzachama. Donc vous avez compris c'est quoi le mot or? Un dit, à partir du or. Vous avez dit, non, pas or, non, t'es un peu tôt, toi, hein. C'est quand qu'il faut s'interdire? Netzachama. Donc s'il entendait lui, c'est quoi le mot or? Hein? La nuit. Ou bien? C'est quoi le avant? C'est quoi avant? Amotechacha. C'est ça va être ça l'enjeu. Puisqu'on a déjà, on a déjà mis une barre. On a dit, le Rabbi Houda, il dit lever du soleil. Il y en a un qui est avant lui. Alors, où est avant? Est-ce que c'est avant, c'est-à-dire depuis la nuit, ou bien c'est avant, c'est-à-dire le Hamoud HaShachar? Alors on va voir tout de suite. Mais maintenant, parce que c'est pile ou face, ça. Ou oui ou non. Regardons la discussion qu'ont eu ces deux grands maîtres, Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbi Yehuda. Et d'après leur discussion, on va essayer de définir est-ce que ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Yaakov, c'était la nuit ou bien c'était Amouda Shachar. On ne sait pas. Essayons de trouver une preuve dans leur discussion. Amar le Rabbi Elazar ben Yaakov et Rabbi Yehuda, v'chi echad matinu yom, shi miksato asur be'asiat melacha, miksato mutar be'asiat melacha. Regardez quelle question qu'il demande. Mais Rabbi Yehuda, toi tu dis que ça commence quand? Ça commence au net. Mais on n'a jamais vu qu'un interdit commence au net, Sachama. Nous, on connaît rien que quoi? Tout interdit ou tout permis. Mais il n'y a pas, au milieu de la journée, ça, on change. Alors, à 10h15, ça y est, on ne travaille plus. À 10h15, on s'arrête. La journée permise ou la journée interdite. Donc, d'après ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? D'après cette rhétorique-là, d'après cette Anna-là qu'il vient de dire. Hein? C'est Laïla, bravo. Ben oui, parce qu'il a dit, moi, je suis cohérent. Il dit, moi, je dis la nuit. Donc, la nuit, toute la journée. Mais toi, t'es pas cohérent. Toi, tu dis que ça commence au Netzachama. C'est quoi Netzachama? On n'a jamais vu du truc qui commence au Netzachama. On n'a jamais vu ça. Shabbat, ça commence au Netzachama. Donc, Shabbat, tu fais pas Shabbat. Et à 9h du matin, tu commences à faire Shabbat. Ça n'existe pas. Shabbat, c'est la journée. Donc moi, je suis cohérent. À Marley. Mais, bon, pour l'instant, on se positionne a priori pour prouver que c'est la nuit. Écoutez la suite. Ah, bravo. Bravo, félicitations. Regarde maintenant un peu la suite d'abord. On va voir, tu as raison. Amarle ou Atzmo Yochiar. Alors, Rabbi lui dit, mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Tu me dis, comment on n'a jamais trouvé un jour qui commence en plein milieu de la journée, on change de statut? Mais oui! Parce que le 14 Nissan, il change jusqu'à midi, t'as le droit de manger du pain. À partir de midi, tu manges plus de pain, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Moi aussi, je dis que jusqu'à le net, t'as le droit de travailler. Après le net, t'as pas le droit de travailler. Donc, c'est pas une question contre moi. Amale, ou yochia, shimxato muta beachilat hamet, mxato aso beachilat hamet. Voilà la discussion. Dit la Gemara, Jean-Marc, mi de kamar rabbi Yehuda, mishata netzachama, alma, ur de kamar rabbi Elazar ben Yaakov, ur taou. Donc, puisque rabbi Yehuda, il a dit que le travail est interdit au moment du lever du soleil. Donc, ce qui est avant, c'est quoi le avant le lever du soleil? C'est la nuit. Donc, voilà la preuve. La Gemara répond non, comme tu as dit toi. Michael, c'est comme tu as dit toi. La Gemara répond non, le or dont parle Rabbi Elazar ben Yaakov veut dire l'aube. Voilà la différence. Est-ce que avant le net c'est quand? C'est avant de avant ou un avant? Avant c'est Amouda Shachar. Ah, mais la Gemara dit alors si c'est comme ça, c'est un peu complet. Michael, tu as bien dit, mais il manque encore un petit chouïa. Écoute bien. Yachi de kamarle echan matin yom shimksato muta beasiat melacha umksato aso beasiat melacha. Donc ça veut dire quoi? Que lui il dit, moi je dis Amouda Shachar. Et toi qu'est-ce que tu dis? Netzachama. Il dit, mais ce que tu dis Netzachama, c'est pas logique, parce que ça commence en plein milieu. Et toi aussi tu dis Amouda Shachar, t'es pas logique. C'est aussi que ça commence en plein milieu. Alors pourquoi tu me poses des questions à moi? Tu devrais te poser des questions à toi-même. Toi-même aussi, c'est pas logique. Il m'a dit non. Ça, c'est aussi Michael a répondu. Nima iou le nafshe aïka laïla de kachare. Aussi, la nuit, c'est permis. Réponse de la Gemara. Non, il dit. Rabbi Elazar ben Yaakov, achikama. Bishla maledidi. Moi, je comprends bien, je suis logique. Parce que moi, je dis, je veux faire ressembler cette journée du 14 du mois de Nissan à un jour de jeûne. Ashkarna de Kapali Grabanan ben Yemama le Laila Gabeta Nitzibur. Donc on a déjà trouvé que, par exemple, le jeûne de Esther commence quand? Quand est-ce que ça commence Esther? Mais à Amouda Shachar. Et c'est pas normal, parce qu'en vérité, le jeûne doit commencer depuis la nuit. Shabbat, ça commence la nuit. Ça commence pas en plein milieu de la journée, Shabbat. Imaginez-vous quelqu'un qui fait Shabbat le matin. Le pauvre. Il n'a pas mangé couscous. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire son couscous? C'est, hein? Catastrophe. Bon, le kiddush, c'est pas grave, mais les boulettes, là, ça s'impose. Alors, l'Agmara a dit, donc il dit, moi, je suis cohérent quelque part, je fais ressembler cette journée à une journée qu'on a connue dans le calendrier juif. À savoir, ça commence depuis la Bouddha Shacha, pour se terminer jusqu'à cet Akochabim. Mais toi, tu n'es pas cohérent. On n'a jamais vu dans la Torah, de regarder le calendrier, on a eu tous les jours de l'année, jamais une fête, un événement commence au Netzach Haba. Ça n'existe pas. Ou bien ça commence la nuit, ça commence à Mouchacha. Et toi, t'as inventé que ça commence ça commence en plein milieu du Netzach Haba. Voilà, Admatay Ochel Shoté, Achad Amuda Shachar, dit Rabbi Zamed Yaakov. Donc on voit que c'est à partir de quel moment le jeûne commence, à la lueur du jour, ou bien le chant du coq, c'est, bon, en tout cas c'est juste un peu différemment. Et là, l'Edidar, Echa, Ashkarna, Yimama, Goufé, des Paligbar Rabbanan. Où est-ce qu'on a trouvé que les Rabbanan ont fait cette distinction? Alors, écoutez bien la réponse. Amarle, ou Atzmo Yochiyar. Il dit, mais t'as raison. Mais t'as passé en revue tous les 365 jours de l'année. Tu en as oublié un. T'en as un, t'as oublié. Alors, on commence. Bereshit, bara eloki, meta shamay, meta aret. Bon, allez, ma bara, shem, biyom arishon, biyom asheni. Nous, passe tous. Tu vas trouver un qui commence pas ni le soir, ni le petit matin. C'est lequel? Le 14. Le 14, ça commence à midi. Ah, c'est bon midi? Quoi? Avant midi, je mange du pain. Après midi, celui qui mange le pain après midi, il transgresse la fête de Pessah. Certains en carrette, un lave de la Torah. On n'a pas le droit de manger. Mais à midi, ça change. Alors, c'est chol. Le 14, c'est Chol ou c'est Kodesh? C'est quoi exactement ce journée? C'est une journée incroyable. Alors on dit, donc on a vu qu'il y a une journée qui ne suit pas les règles. Il est hors circuit. C'est une journée, le 14, qui est au-dessus du temps et de l'espace. On va l'appeler la Rishon. On va voir après. Tajbitu, c'est homme, il va dire Ah, Bayom, Arishon, Tajbitu, c'est Rishon, Rishon, c'est au-delà du temps. C'est la sortie d'Égypte, c'est le Rishon. Donc, comme ça ne suit aucune règle, moi, je me permets de faire aussi une exception. Je ne veux pas dire que c'est interdit de travailler depuis la Mouda Shachar, comme habituellement on fait. Je veux dire, c'est interdit de travailler à partir du Netzach Haba. Et tu me dis, mais quel droit t'as le droit de faire ça? Mais j'ai le droit parce que de toute façon, le Chatzot, c'est la différence qui va faire entre manger du pain et pas manger du pain. Donc, c'est pire qu'Amarle Rabbi Yehuda et Rabbi Zer, donc c'était une bonne question. Réponse, Ari Kamarle Rabbi Zer, Amina Lachana, Mlachad Rabbanan, Vat Amartli, Chames Doraita, De Ad, Acha Asar Rahamana Vadacha Sharahamana. Alors il lui dit, mais écoute Rabbi Yehuda, mais tu dis, c'est pas logique. Bon, tu m'as trouvé une exception, c'est vrai. Il y a une exception, c'est vrai que cette journée-là, elle est vraiment, elle m'embrouille. Mais elle n'est pas si embrouillée que ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la Torah, s'écrit Mefourash que jusqu'à la moitié, c'est permis, et l'autre moitié, c'est interdit. Comme il écrit, Rashi dit, chetzi. C'est dans le Hadbash, on va le voir, dans le Hadbash, on voit dans la Torah que c'est partagé en deux. Donc la Torah dit, mais fourrage, jusqu'à là, tu as le droit, là, tu n'as pas le droit. Donc ça, j'ai pas de question à poser. Mais toi, tu inventes quelque chose de nouveau. Que chatzot, ça change d'état, ça j'accepte. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah. Mais toi, comment tu peux te permettre, Midrabanan, de faire une nouvelle institution? Ça commence du net et pas avant. Normalement, ça doit commencer, normalement, logiquement, par le début de la journée. Veidar, Sha'ot de Rabbanan. Il dit non, mais toi, écoutez bien comment ils sont trop forts, les Chachamim. Regardez bien comment ils réfléchissent. D'accord. Tu m'as dit là-bas, c'est les Minatora, mais les Rabbanan, ils font pas des embrouilles comme ça. Tu fais oui des embrouilles! Parce que tu n'as pas interdit le Hametz à Hatzot. Tu as interdit le Hametz deux heures avant. Une heure d'après l'un et d'après l'autre, deux heures avant. Donc toi-même, tu as fait dans le Hatzot. Donc, ce qu'on a droit de manger le Hametz, c'est pas à midi. Celui qui mange à midi, Chlet. Bravo! Donc, ils ont rajouté deux heures avant Hatzot, au début de la cinquième heure, deux heures, donc à la cinquième et la sixième heure, et Hatzot, c'est à la fin de la sixième heure, deux heures avant, on a interdit de manger du Hametz. Donc, Midrabanan. Donc, on voit que le Rabanan, ils ont aussi joué. Ils ont ajouté un petit peu avant, ajouté après. On dit, moi, si le Rabanan, il bouge, moi aussi, j'ai pas besoin de faire tellement interdit. Je laisse les gens, s'ils ont juste un contrat de quelques millions d'euros à signer pour le 14 du mois de Nissan, ben, il dit, tu sais quoi, tu veux signer ton contrat, viens ici, tu signes, tu passes un coup de fil à 14 du mat, allô, viens signer le contrat. Il dit, écoute, il faut 14 du mat. Il dit, ah ouais, parce qu'à 5 ans moins quart, je travaille plus. Bon, c'est une blague. On a laissé les gens, un petit moment. C'est ce que l'Agmara répond. Et Veidar, et l'Agmara dit, alors et l'autre, comment il va répondre? Et il a bien raison, hein, il a bien raison de dire que tu vois bien que les Ramanan aussi, ils jouent, ils se permettent. Il m'a dit, Veida, Achaka, Udeavud, Rabanan, les Dora. Il t'a dit, ça n'a rien à voir. Parce que, en vérité, Minatora, Sechatzot. Rabanan, simplement, ils ont dit que les gens, ils peuvent se tromper. On a rajouté une heure, deux heures avant. Mais ils ont pas fait n'importe quoi. Mais toi, tu fais du n'importe quoi. Parce que toi, tu fais du net. Net, ça n'a pas de sens. Eux, alors, toi aussi, tu fais pas de sens. Parce que tu fais deux heures avant. Mais les deux heures avant, ça a un sens. Parce que les gens, à l'époque, ils n'avaient pas de montre. Donc, ils voyaient le soleil. Des fois, le soleil n'était pas clair, c'était au zénith. Alors, on a dit, voilà, ils ont se trompé. Donc, peut-être, on croit que le soleil, il a basculé vers l'ouest, alors qu'il est encore à l'est. Donc, pour ces raisons techniques, ils l'ont interdit. Mais, toi, pourquoi tu as fait du net? Où c'est qu'on a vu du net? On n'a jamais vu un truc qui commence au net. Jamais vu ça. On a vu ou bien le soir, ou bien le matin. Donc, voilà comment on a répondu à cette question. Bravo. C'est exactement ce que la Gemara vient de dire. Là-bas, c'est pour ça qu'on a fait deux heures avant. Alors que le net, c'est pas besoin de faire deux heures avant. C'est le net, c'est le net. Dernière partie de ce DAF, question. Quatrième question contre Ravuna. Netiv, on a posé une question. En messi in mesoot. Et là, la chodesh et nire bismano. Les quatre choses. Matai messi in mesoot. Les or iburo. C'est une Mishnah. Qui dit, dans une braïta, pardon, qui dit la chose suivante. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas communiquer à Yerushalayim, le Sanhedrin ne pouvait pas communiquer que le mois était Mehoubar, c'est un mois qui est composé de 30 jours, et que ça s'appelle un mois Mehoubar, un mois qui est plein. Chez nous, il y a deux Rosh Chodesh, le 30 et le 1, ou bien un seul Rosh Chodesh. Donc comment on peut savoir que c'est un mois qui est Mehoubar? Ben, ça dépend. Si on allume les torches à travers de dans chaque montagne, les gens ils ont compris. En tout cas dans la Braïta il y a écrit Matay Messi Mesuot les Or Iburo Alma Or Urtaou. De là, on voit les or iburo, on voit mes fourrages, que le mot or, c'est, parce que imaginez-vous qu'on va allumer des torches la journée. Qui c'est qui voit quelque chose? Donc, on allume les or. Les or, ça veut dire le or iburo, ça veut dire la nuit du ibur de Chodesh. Donc, on voit que le mot or, c'est quoi? C'est, ça veut dire qu'on allume. Imaginez-vous, à midi, tu vas allumer des torches. Ça sert à rien. Donc, le mot or, il veut dire quoi? Il veut dire la nuit. Donc, deux échecs et mat. La tour, elle a fait échec et mat au roi. Et maintenant, là, on a mis même un cheval. 2-0. La Gemara a dit, attends, on va enfoncer le clou. Mais avant d'enfoncer le clou pour Ravuna, on va un peu s'occuper de Rabbi Yehuda. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Rappelez-vous, là, on lui avait posé 6 questions contre Rabbi Yehuda. Maintenant, on va poser une 7e question d'une braïta. Parce que pour l'instant, on avait dit 6 questions contre Rabbi Yehuda, mais qui avait l'air dans un verset. Maintenant, on a mené la 7e question. La 7e, c'est pas contre un verset, mais c'est là qu'on ouvre un braïta. Métivé, aya, omet, kola, laïla, ou makriv, ala, misbéar, le, ora, taoun, ki, douche, yadaïm, raglaïm, dit le Rabbi. On a posé la question à Rabbi Yehuda, la braïta suivante. Si quelqu'un, un Kohen qui se donnait toute la nuit sur l'autel, et vous savez que dans la Torah, un Kohen, avant de faire la Avoda, il doit se laver les mains et les pieds. Et si Chas v'Shalom, il rentre au Beit HaMikdash sans se laver les mains et les pieds, Chas v'Shalom, il est Chayav Mita Bidei Shamayim. Tout simplement. Mita Bidei Shamayim, Chas v'Shalom. Et donc, c'est ce qu'on appelle la kidouche yadaim raglaim. C'est pour ça que nous, le matin, on se lave les mains. Pourquoi ? Parce qu'on veut être comme des Kohen en miniature, le dit le Roche. On veut être comme des petits Kohen. On dit, oh, moi, je suis pas Kohen, mais un petit chouïa de Kohen, je veux. Je veux avoir les mains propres, comme je veux faire à Avodat Hashem. Je veux faire la tefila, je veux faire kidouchem shamay. Je veux me laver les mains. Maintenant, imaginez-vous qu'un Kohen qui s'est lavé les mains hier matin. Et il a passé toute la nuit en train de travailler au Beit HaMikdash. Parce que vous savez que même la nuit, on n'approchait pas des sacrifices, mais on faisait quand même certaines choses, à savoir, on brûlait les membres, Ekter Halavim, Vevarim, il y avait tout un travail. Et lui, il a fait tout le travail la nuit. Arrivé le petit matin, bon, j'ai fait toute la journée, j'ai fait toute la nuit. Donc maintenant, le matin arrive, je vais continuer ma avoda. Jusqu'à midi, je travaille, après je rentre à la maison. Maintenant, dit Rabbi, écoutez bien, si le pauvre Kohen qui veut faire du zèle, dit moi, je peux me laver les mains. Je me suis déjà lavé les mains, je ne me suis pas arrêté 5 minutes. J'ai fait 7 dapim sans m'arrêter. Imagine quoi, ça va. Ça y est, ça suffit. J'ai fait 7 dapim. Maintenant, je vais faire un petit arrêt. On va faire un petit arrêt bientôt 5 minutes. Et après, le Rav Mevor Zevri va faire le daf numéro guimel. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un petit arrêt. Prends un petit café. Sympa, non? Ah, attention. Café, tu as le droit de prendre. T'arrêtes, tu as le droit de faire. Mais si tu reprends, tu dois te lever les mains. Mais j'ai pas, mes mains, ils sont propres. Je travaille. Oui, mais comme la journée, elle a changé. On était Shabbat, on est dimanche, on est lundi. Donc, c'est sous l'ina. L'ina poselet. La nuit est arrivée. Là, c'est pour ça que nous aussi. Ça, on apprend ça à l'inara. Imaginez-vous que vous avez, par exemple, le soir de Shavuot, on fait la veillée. Le matin, vous avez besoin de vous raver les mains? Non. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas dormi. Eh bien oui. D'ici. Parce qu'il y a écrit, même si c'était Makriv à la Misbéar, même si c'était sur Misbéar. Marloquette. Dans l'Acha, on ne fait pas. Comme c'est Marloquette, Tashkinaz, ils ne font pas. Sans boire. C'est pas, ils ont même droit de faire. Mais en tout cas, à Misbéar, donc on a le droit que je arriverai. Donc on voit d'ici, Dagmara, on voit d'ici que le mot, voilà, le Hora, c'est la journée. Agmar a dit aura shani. On parle ici du mot or. Mais lorsqu'on dit aura, c'est simcha. Quand la aura, c'est sûr que la aura, c'est la simcha. Amen, kanira tzadak. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait une petite pause de 3 minutes et on reprend.
On est attiré par le Khametz parce que c'est juste pendant une semaine qu'on a été attiré. Mais les fruits dans lesquels on n'a pas fait la prélèvement. On ne doit pas les détruire tout de suite, je ne sais pas si ça vous plaît par rapport aux gens.
Parce que c'est des fruits.
Ils ne sont pas sur Bana. Ils sont sur Nath. Oui, ils ne sont pas sur Asobachi, ils ne sont pas sur Bana.
D'accord. D'accord, mais d'accord, mais vous avez dit sur Bassar Yachalab, on peut avoir le temps pour le truc.
Mais un peu de musique en même temps.
Ouais, ouais. Vous avez dit pour passer vers Halam, on peut attendre un petit peu avant de le décrire. Alors que le Ramadan, c'est immédiat. Ah, vous voyez, c'est bizarre que vous dites qu'il n'y a pas de Hana sur le.
Il n'y a pas de problème.
D'accord,
il y a. On va bien me dire que c'est sur la musique.
Jean-Paul.
Ouais. Moi,
j'ai appelé Johnny Sigurd.
Non, non, une autre,
c'est en train de me faire. C'est vous qui contrôlez les chansons. Moi, je fais tout le son.
Bien bien, c'est bon.
Moi, j'ai en tête que c'est
moi qui fais ça. On fait comme ça alors.
Double ticket dessus. Ah non, là, vous l'avez. Ah,
on prend tous.
Ah, vous faites contrôle A, comme A.
Moi, je ne connais pas.
Comme A.
C'est pas ça.
Rabbi Yahou.
Comme un.
Mais Gitabo, Yomam, Valaïla. Donc jour, c'est Yom, c'est pas. Or, c'est lumière, c'est rien que la lumière. Pourquoi est-ce qu'on
veut dire. Gitabo, Yomam,
Valaïla.
Yomam. Yomam, c'est pas or.
Yomam, c'est jour, justement.
Oui.
Mais ce qu'on cherche, c'est le jour ou la nuit.
Non, on cherche le mot or.
D'accord.
Yomam, c'est passé.
D'accord, mais le mot or, ça peut être le jour. Parce que lorsqu'on veut définir un jour, on dit Yom.
Ah, tu veux dire. Ah non, mais il y a plusieurs mots qui veulent. Il y a beaucoup de mots qui veulent dire jour. Yom, Boker.
Maintenant, le jour, c'est la nuit. Yom Hayeha, Bayam Kulim
Hayeha, Lelot. Voilà. Yom Hayeha, voilà, ça c'est bien, c'est pour la Gada. C'est ça, c'est bien.
Tu dis, mais celle-là.
Patrick.
Voilà, allez, l'autre.
Non, j'ai, parce que comme ça a été glissé. Non, je sais, mais j'ai déplacé les chansons, elles sont venues là. En fait, c'est très glissant par rapport à moi. Remets-les dans le dossier où elles étaient là. Elles sont là. Contre Z là.
Remets-lui, il voulait mettre la liste.
Et sur le poète aussi.
Non, je vous pose des
questions. Je vais régler le problème.
Attends, je suis vraiment dans...
Il n'y a pas de point là-bas.
Allah.
Là, t'as Patrick aussi, tu peux peut-être le voir. Et si je fais ça, j'arrive pas à mettre... Voilà, il est là comme ça, non? Est-ce que là, t'as les... Mais, dis-moi, comme ça, éventuellement, un peu mieux?
Merci.
Si tu as des calvaires à gauche, tu auras le rat.
Oui, rat, pardon, excusez-moi.
Voilà.
D'une diapo à l'autre.
Avec ça.
Hein,
avec ça.
Okay. Et si je vois les deux sur le. Je vois ce qui.
Là, il y a un livre. Là, il n'y a que le texte en PowerPoint. Il n'y a que ça.
Ouais. J'ai pas le texte de la Gemara.
Le texte de la Gemara, il est en tête.
Mm-hmm.
Il est en tête du PowerPoint. J'arrive. Je vais vous le montrer. J'arrive plus. Mm-hmm. J'ai arrivé, ils m'ont ouvert 50 fenêtres. Alors on y va, 1, 2, 3, il faut que... Oui, je suis plus que bête. Voilà.
Enfin, j'ai ici que le...
Oui, que cette fâche-là.
Bon travail.
D'accord, mais j'arrive même pas à la voir.
Ah, c'est exactement bête.
Il faut que j'y arrive.
Oh
non, deux secondes si c'est possible, grave. Alors pourquoi j'ai plus le...
T'en fous la musique, là.
Ah oui, moi ça je m'en fiche, mais si je m'en fiche, grave, c'est... Il me faut ça, moi. J'arrive plus à la voir.
Il n'y a plus de fiche.
Je vais regarder... On change de support ou pas, grave. Là, je passe à la
croix. Ah ouais, là, on change.
Grave, c'est enfin. Essayez de vous rapprocher le maximum de la
route. Voilà,
vous allez moins vous fatiguer.
Vous
allez vous éviter les attaches.
Jean-Paul, c'est une catastrophe.
Bah, il aurait fallu le pied. Je pensais que c'est vraiment le pied, je sais,
Rave. Ça arrive pas. Hein.
Parce que, Rave, regardez,
ça sent bien.
Mais moi, j'ai compris, il aurait fallu le pied.
On va y arriver là. Allez, j'en suis toi.
Ah oui, non, mais.
Merci là. Alors, Bouteille, on va commencer. Vas-y, tu arrêtes la musique.
Ouais, j'arrête.
S'il te plaît.
Ouais, pas de soucis.
Vas-y. Allez.
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
Alors on y va, on commence le Daf Gimel, עמוד א', Chabot, Mevorah, Chabot. Mevorah, comme son nom l'indique, c'est une bracha.
C'est grave. Peut-être juste un petit mot d'introduction. J'avais perdu mon père. Il y a quelques années, le jour de Yom HaTalmud, c'était le jour de la Levaya, et je crois que depuis j'ai pas eu le sroute de pouvoir participer, et donc pour moi c'est avec beaucoup de plaisir que je j'essaye auprès de Rav Aouzi de participer à ce Yom HaTalmud. Cette année, il a une résonance encore plus forte, puisque on permettrait de dédier les Louis Nishma de Moreno Rav Chaim Tzvi ben Rav Yehuda Cohen, le Rav Rosenberg, notre Rav, et aussi de mon beau-frère qui on est dans le mois de Avram ben Rachel. Et donc l'imoud, c'est ce qu'il y a de plus fort pour dans tous ces moments. Alors on va avoir une page remarquable qui va être un petit peu dans la continuité de ce qui a été dit jusqu'à présent, où il y avait eu donc des démonstrations pour savoir si or c'est jour ou nuit. Et on va continuer dans les démonstrations. On est à la, en fait, il y avait eu la, donc c'est une question qui va se poser. C'est donc la cinquième question qui va être posée sur est-ce que or ça va être jour ou nuit. Donc c'est question contre Rav Huna. Donc Metiver Marzoutra a objecté. Hamapelet or lishmonim ve'echad bet shemay potrin mikorban ou bet hilel mechayvin. Donc Marzoutra a opposé à Rav Huna la Mishnah suivante. Une femme qui a fait une fausse couche après la naissance d'une fille pendant le or du 81e jour, bet shemay la dispense d'apporter un autre korban, alors que Beth Hillel l'oblige à porter un autre korban. En fait, le principe est le suivant. Une femme qui a accouché, alors en fonction si c'est un garçon ou si c'est une fille, eh bien il va avoir un temps d'impureté et après un temps qu'on appelle Dam Tohar, qui va être différent. Donc pour un garçon, elle va elle est au mikvé. On parle du dinim de base, hein, c'est pas aujourd'hui les dinim comme cela, mais dinim de base de la Torah, c'était au septième jour, elle va au mikvé, et pour un garçon, à 33 jours après, elle amène un korban, et on va considérer que pendant toute cette période, bien même si elle a du sang, il est pur, et elle n'amène pas encore son korban, ses sacrifices, pour remercier Hachem. Ça, c'est pour un garçon. Maintenant, si c'est pour une fille, c'est au bout de 14 jours qu'elle va au mikvé, et c'est 66 jours après qu'on va considérer que elle est dans la continuité de cette naissance. Ça veut dire que là on a pris le cas d'une femme qui va avorter au bout de 80 au 81e jour hors du 81e jour, et on va voir donc de quoi il s'agit. Et donc pourquoi on a pris ce cas, on aurait parce que à ma pellette, elle est...
Elle a fait
une fausse couche, ouais. Oui. Donc, elle a fait une fausse couche au 81e jour. Et donc, en fait, on a pris ce cas-là et pas le cas du garçon, parce que il faut le temps qu'elle puisse retomber enceinte. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris le cas de la fille. Alors, comme il y a marqué « Or, l'Ishmoni Vechad », la question est la suivante. Bet Shammai dit... comme on est le soir et que le soir on peut pas amener de korban, on peut pas amener de sacrifice, eh bien on va considérer que c'était comme si que c'était pendant les 80 jours qui précèdent. Et donc comme c'était Dam Tohar, c'était pur, et finalement on va considérer que comme si que si elle va amener un sacrifice, elle lui amènera un sacrifice pour les deux naissances, et on pourrait considérer les deux naissances comme des jumeaux. Alors que Beth Hillel va dire non, dans la mesure où si elle a du sang à la nuit du 81e jour, elle sera impure. On n'aura pas le même din que pendant les 80 jours qui précèdent. Et donc, comme elle sera impure, donc ça veut dire que c'est un nouveau compte. Et donc, si elle est mapelette, donc si elle fait une fausse couche à ce moment-là, eh bien, elle devra amener deux corbanotes, deux sacrifices. Un pour la naissance où elle arrive au 81e jour, et l'autre pour cette fausse couche qu'elle a eue maintenant. Donc, de là, il est clair que si on nous dit que hors de... ça va être donc dans la... Pardon, dans la... Le suivant, je crois. On va, Voilà. Amu lahem bet Hillel et bet Shammai. Maishana or shmonim ve'echad miyom shmonim ve'echad. Im shiva lo le tum'a lo yishve lo le korban. Donc bet Hillel dit à bet Shammai, qui a dit, elle amènera qu'un seul korban. En quoi le or du 81e jour est-il différent de la journée du 81e jour? Si le or est équivalent à la journée en ce qui concerne la Touma, ne serait-il pas équivalent à la journée en ce qui concerne l'offrande? Donc, puisque dans la mesure où Beth Hillel dit à Beth Shammai, en quoi, puisque le or, on va comparer le or du 81e jour à la journée du 81e jour. Si le or est équivalent à la journée, en ce qui concerne la Touma, puisque si elle est la nuit du 81e jour, donc, eh bien, pourquoi elle serait pas aussi équivalent au niveau du Corban? Donc, comme si elle avait eu la fausse couche dans la journée du 81e jour, elle devra amener deux Corbanotes. Tu es d'accord, Beth Shammai? Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que si elle avait été ma palette, elle avait eu la fausse couche dans la journée du 80e, pas 80e, la journée du 80e. Beth Shammai, Beth Hillel, tout le monde est d'accord, elle amène un seul Corban. Maintenant, si c'était le 81e jour, tout le monde est d'accord, Beth Shammai comme Beth Hillel, elle amènera deux Corbanotes. Alors maintenant, que dit le statut de la nuit? Et donc, maintenant, Beth Hillel dit à Beth Shammai, dans la mesure où dans la nuit, si elle a du sang, ça ne sera pas le même dîne que dans les 80 premiers jours. Donc si ce ne sera pas le même dîne que dans les 80 premiers jours, donc c'est un nouveau dîne. Donc tu vois que ça va être le même dîne que la journée du 81e jour. Donc maintenant, Mide Kamar Beth Hillel et Beth Shammai, Maishana Or Shmonim Ve'echad, Miyom Shmonim Ve'echad, Shmamina Or Orata Ou. Puisque Beth Hillel dit à Beth Shammai, en quoi le Or du 80e jour diffère-t-il de la journée du 80e jour? On apprend de là que Or est employé pour dire le sens de la nuit. Parce que, pour faire la distinction entre Or et Yom, ça veut dire que Or, ça peut pas être Yom. Donc si Or, ça peut pas être Yom, donc Or, ça veut dire la nuit. Et donc, on a ici une démonstration qui revient confirmer que Or, c'est bien la nuit et c'est pas le jour. Donc ça, c'est une autre démonstration. Shmamina. Donc en effet, apprend de là que Or veut dire la nuit. Et donc là, on a la confirmation. J'irai peut-être, Rav, c'est un échec, un troisième échec et mat dans une troisième partie. Peut-être. Comme ça, c'est...
Troisième partie.
Ouais, c'est échec, quand on peut continuer de jouer. Ouais. Échec et mat, quand c'est-à-dire enchaîné.
Donc là c'est un troisième... On a fait une troisième partie, échec et mat.
Trois pièces dans le même partie. Tu amènes trois pièces en même temps. C'est le même sujet, trois pièces.
C'est avec, bien aussi. Avec une seule pièce, on avait déjà gagné.
Oui, mais
alors, donc on va dire que c'est une nouvelle partie.
Imagine-toi, tu fais un chèque avec trois pièces. C'est Kenny Ratson.
Kenny Ratson.
Excusez-moi.
Oui.
La question, c'est, puisqu'il semblerait que pour Beth Hillel et Beth Shammai, il n'y ait aucun doute que Or, c'était la nuit. On voit justement qu'ils discutent d'une demi-journée. S'il y avait un problème, ils auraient sorti le problème que Or, ça aurait pu être interprété autrement. Comment ça se fait que une génération plus tard, c'est-à-dire pour les Amoraïm, ça devient tout d'un coup un problème terrible, alors qu'apparemment pour les Tanaïm, ça pose que quand on dit Or, il est évident que ce soit la nuit.
On pourrait dire simplement que les Amoraïm n'avaient pas eu la formation complète de cette marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ils n'avaient pas entendu cet enseignement.
On peut retirer comme ça. Plus simple, parce qu'en réalité c'est une Mishnah, donc il n'y a pas un Amora qui doit connaître toutes les Mishnayot. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a fait une mauvaise interprétation des paroles de Ravuna. Et pour prouver que notre interprétation est fausse, donc on a passé en revue tous les psukim et tous les Mishnayot où on trouve le terme Or. Et cette Mishnah, elle est tellement flagrante que la Gemara nous dit, mais c'est impossible que Ravuna puisse. C'est pas échec et mat. C'est pas qui reste de Shalom s'est trompé. C'est qu'on n'a pas compris. Donc la Gemara dit c'est une Mishnah et c'est toujours comme ça. C'est les dernières questions qu'on va voir. Ils vont être encore plus puissantes que les premières.
On a commencé par ça parce qu'apparemment c'est une super évidence.
Oui. C'est vrai. C'est, la réponse est toujours comme ça. Dagmara, elle veut nous faire réfléchir. On veut d'abord te pousser à la réflexion. Si tu avais cette Mishnah, est-ce que tu peux en déduire l'Agmara, c'est pas le Shulchan Aruch. La force de l'Agmara, c'est le génie juif. Le génie juif, c'est quelque chose qui nous apprend à réfléchir. Tu sais, les Coréens du Sud, ils apprennent l'Agmara. En faculté. En fac, ils apprennent, pas dentaire, ils apprennent l'Agmara. Et ils font Chavruta. Incroyable. Ils ont l'Agmara en coréen. Et ils font Raza, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que le génie des juifs, c'est un Agmara. On a compris que c'est quoi l'Agmara? C'est pas Shulchan Aruch. Permis, interdit, moutard, asso, moutard. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Mais nous, ce qu'on veut comprendre, on veut t'apprendre à réfléchir. Parce que dans ta vie, tu auras toujours des problèmes. Et tu vas prendre une décision. Je signe ce contrat ou je ne signe pas le contrat. C'est quoi? Lis bien ce qu'il y a écrit. Lis bien. Apprends à lire. Or, attends ce mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il m'a fait une clause dans mon contrat. Qu'est-ce que je dois faire? À force d'étudier l'Agmara, ton cerveau il va se façonner. On va façonner le cerveau juif. C'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est vrai qu'on pourrait plus dire depuis le début, oh là-bas, ça veut dire, allez, arrêtez. On a dit, on a amené tous les versets. Non, je peux repousser. Je peux te repousser. Celui-là, je peux expliquer comme ça. Ça, oui, ça, non. Ah, là, tu me bloques. Mais celui-là, oui, celui-là, non. Jusqu'au moment où on va dire, voilà, on a passé tout, on a tout essayé, et on est arrivé dans une impasse. C'est une impasse, il faut faire marche arrière.
Et voilà. Si je peux me permettre, c'est que Corée. C'est celui qui lit. Et donc, en fait, c'est les Coréens, pourquoi? Parce qu'ils avaient trop de rapports avec le Mikra. Alors, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de Torah Shebaal Peh. C'est un limout pour tout le monde entier que s'il n'y a pas Torah Shebaal Peh, la Mikra, on ne le comprend pas.
Comment alors, Ravuna, qui a d'après différent, qui a un Tana?
Non, Ravuna, c'est un Amora. Ravuna, Ravuna et Ravuna. Rav, c'est pour ça que je dis, tu vois que dans la Gemara, tu vois Rav, c'est un Amora. Quand c'est Rabbi. C'est la question. Ça demandait. C'est la question. On a dit que Rav Meron Azari va répondre.
Si je peux juste rajouter encore une petite chose sur pourquoi autant de démonstrations, c'est parce que dans les psukim, ce qui était plus fort, c'était que or, c'était la lumière. Après tout, le plus logique, c'est que or, c'est de la lumière. Et donc, ça veut dire le jour. Et là, finalement, l'Agmara, elle nous retourne un petit peu l'esprit en disant, attention, or, c'est pas le jour, c'est la nuit.
On va expliquer que les Juifs, ils ont la possibilité de transformer la nuit en jour. On te dit la nuit, tu dis or. Or, je rêve ou quoi? Non, c'est l'or.
Et ça, c'est de l'or.
Ravuna, quand il est en marloquette avec Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda, pardon. Mais Rabbi Yehuda, c'est...
Si lui il interprète différemment, comment lui il fait la halakha? Il peut interpréter et faire la halakha différemment.
On a dit qu'au départ, on pensait que Ravuna, lui, il faisait pas comme nous, 14 Hametz. Lui, 14 Hametz, avant de brûler le Hametz, il allait, il faisait ça 14 Hametz, il ramassait
le matin.
On a dit qu'au contraire, d'après la Svara, c'est ça qu'il allait faire. Parce que ce que tu fais, toi, c'est un peu juste, parce que tu fais 14 Hametz et tu continues à manger du pain. Je dis non, tu manges dans la salle de bain. Tu sais, les Tunisiens, ils mangeaient, ils faisaient la salle de bain. Hein, salle de bain. Oh, c'est le premier rouleur.
Alors, donc on arrive maintenant à la... Non, pourquoi il passe pas?
C'est Mamina.
Ah voilà. Et non. Pourquoi il est motivé? Voilà. Donc on arrive à la sixième question. Motivé.
Contre Ravuna.
Motivé yachol yenechal or lishlishi. Donc on a opposé à Ravuna la braïta suivante. On aurait pu penser qu'une offrande de Shelamim peut être mangée durant le or du troisième jour. En fait, le principe est le suivant. Et dans qu'on amène les korbanot, il y a deux korbanot qui ont une certaine ressemblance, mais qui ont une différence au niveau du temps. Le korban Toda, qui se mange en un jour et la nuit qui suit. Et le korban shlamim, les rémunératoires, qui se mange en deux jours et une nuit. C'est-à-dire la nuit qui est entre les deux jours. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va avoir une similitude entre le korban toda, où on nous dit il se mange le jour et la nuit qui suit, et le korban shlamim, où on nous dit je mange le jour, la nuit et le jour qui suit, mais est-ce que la nuit, la deuxième nuit qui suit, va être le même dîn que la nuit du toda, quand c'est un jour et une nuit? Ou alors je dis non, ici c'est pas la même chose, parce que c'est pas le même dîn. Et donc ça va être la question. Donc on va objecter. Est-ce que donc on peut manger le korban shlamim hors l'ishlishi, donc au hors du shlishi, ça va être nécessairement à la nuit du troisième jour? On va leur dire vedinu. Et c'est vedinu zvachim nechalim le yom echad ushlamim nechalim lishnei yamim. Et cette affirmation est appuyée par l'argument logique suivant. Certaines offrandes sont mangées pendant un jour, tandis que des offrandes des shlamim sont mangées pendant deux jours. On a dit donc que le toda, il est mangé en un jour, comprenez un jour, c'est-à-dire le jour et la nuit qui suit. Alors Rashi ramène le korban Pessah, on est dans le sujet, et ça pose un petit problème, parce que le korban Pessah, il se mange pas le jour, il se mange d'avka la nuit. Donc c'est un exemple un peu particulier, puisque en général quand on parle de korban toda, c'est un korban qu'on peut manger déjà dans la journée et qu'on peut encore continuer à manger la nuit. Mais korban pessah, on peut pas du tout le manger la journée. C'est pour ça qu'on est obligé d'attendre la nuit tombée pour commencer le seder, parce que il est marqué bachaltem et pessah balayla.
C'est le ran.
Et donc c'est pas forcément la meilleure. La meilleure approche. En tout cas, ce qu'on voit d'ici, c'est que les corbanotes qui se mangent en un jour, se mangent un jour et la nuit qui suit. Et donc, si on a des offrandes qui doivent se manger en deux jours, donc ben, deux jours, la deuxième nuit devrait avoir le même dîn que la première nuit des autres corbanotes. Ma lehalan laila achar ayom, afkan laila achar ayom. Par conséquent, de même que là-bas, dans le cas des offrandes que l'on ne mange que pendant un jour, la nuit suit le jour. De même ici, dans le cas des shelamim, la nuit devrait suivre le jour. C'est pas, on parle de la deuxième nuit. La première nuit, c'est marqué en toutes lettres, c'est meforash. Mais la deuxième nuit, c'est pas évident. Et on va voir que c'est loin d'être évident, et c'est là-dessus que va se poser la question sur le mot or du deuxième soir. Et on dit, Talmud Lomar, ביום זבחכם יאכל וממחרת ואין נותר עד יום עד יום ועוד יום הוא נאכל ואינו נאכל לאור שלישי. C'est pourquoi la Torah dit le jour de votre sacrifice de shlamim il sera mangé le jour et le lendemain le jour et ce qui restera jusqu'au jour. Cela nous apprend qu'un shlamim peut être mangé uniquement pendant qu'il fait encore jour et ne peut pas être mangé durant le or du troisième jour. Parce qu'il y a marqué donc, Beyom Zifrachem, le Yom, ça veut dire Yom. Et donc, le jour, le premier jour et le deuxième jour, mais tant qu'il fait jour. C'est que dès qu'on est passé à la nuit, la deuxième nuit, on ne pourra plus manger le korban. Donc, ça ne ressemble pas au Toda. Et donc, Yachol Yisaref Miyad. Alors maintenant, c'est pourquoi on aurait pu penser que le reste de la viande des shlamim doit être brûlé de suite, c'est-à-dire le soir de la deuxième nuit, puisque tu m'autorises plus de le manger. De la même façon que le korban toda, je peux le manger le jour et la nuit qui suit, et quand j'arrive le matin, je peux plus le manger, mais je le brûle. Donc ça veut dire que quand je peux plus le manger, donc je vais le brûler, alors je pourrais comprendre que le korban shlamim, que je peux manger pendant deux jours, la deuxième nuit, je peux plus le manger, donc je peux le brûler maintenant? On te dit non. Védin hu zvachim nechalim li yom velayla echad, ushlamim nechalim li shnei yamim velayla echad. Et cette affirmation est appuyée par l'argument logique suivant. Certaines offrandes sont mangées pendant le jour et la nuit. Un jour et une nuit, pardon. Et les shlamim sont mangés pendant deux jours et une nuit. On va nous dire, ma lehalan techef l'achila srefa, afkan techef l'achila srefa. Par conséquent, de même que là-bas, le moment à partir duquel on doit brûler, suis immédiatement le temps de manger. C'est-à-dire, dès que je ne peux plus le manger, je le brûle. De même, ici, dans le cas des Shlamim, on a dit que le moment de brûler aurait dû suivre immédiatement le temps de manger. C'est-à-dire, tu m'as dit qu'on ne peut pas le manger la deuxième nuit, donc c'est le moment où on pourrait commencer à le brûler. Et on va nous dire que Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset nous a dit, Ve'anot armi besar azdevar, bayom ashishi, ba'esh isaref, bayom atasoref, veye atasofo, balaila. La Torah a dit, pour conclure ce raisonnement, et ce qui restera de la viande de l'offrande du Shlamim au troisième jour, le troisième jour, pas la nuit, sera brûlé par le feu. Ce verset nous apprend donc qu'en journée tu le brûles, tu ne le brûles pas pendant la nuit. Donc la deuxième nuit pour le Shlamim, je ne peux plus le consommer. Ah, peut-être que j'aurais pu le brûler à ce moment-là. Le pasouk me dit, Bayom Ashlishi, au troisième jour. C'est pour ça que le verset précise que c'est que le jour que je peux le brûler et je ne peux pas le brûler la nuit. Ça veut dire que la deuxième nuit, c'est no din lance. Il n'y a pas de din. Ni je peux le manger, ni je peux le brûler.
Donc là, or,
on peut
dire bien jour.
Donc là, or, c'est alors, non. Or, ça veut dire nuit. Puisque là, on s'est posé la question du or, et là, on était parti sur le principe de la deuxième nuit.
Si on dit que
non, non, on n'a pas dit or, là. On a dit Beyom du Shlishi. On s'est posé la question. Est-ce que le or du deuxième jour, on pourra le brûler? Et on a dit, on peut pas. Pourquoi? Parce que Beyom Shlishi, Beyom Shisaref. C'est qu'au troisième jour qu'on pourrait le brûler. Et quand il fait jour. Donc ça confirme. Or, ça veut bien vouloir dire nuit. Alors. Midekamar, yenechal or lishlishi, alma or urataou. Puisque la Braïta nous dit que l'on aurait pu penser que l'offrande Shlamim peut être mangée durant le or du troisième jour. Nous voyons donc que or est employé dans le sens de nuit. Shvamina, en effet, on apprend de là que or veut dire nuit. Quatrième partie de l'échec et mat. Quatrième échec et mat. Donc, et c'est pas terminé. Il y a encore deux. Il y a encore deux, et vous allez voir, plus ça avance, et plus ça se précise. Le coup de grâce, ça sera la dernière. Ça, c'est la zéro. Donc, septième question. La septième question. Tashma. Or, shel yom akipuri mitpalel sheva, mitvade, shachit, mitvade, mitpalel sheva, mitvade. Donc, Moussaf, on a opposé à Ravuna la braïta suivante. Le or de yom akipur, on prie dans la mida comportant sept bénédictions et on confesse ses fautes. Vous savez que déjà j'explique ça, puis après on va sur la suite. Vous savez que la Amida est constituée de la structure suivante. Vous avez trois brachot d'introduction qui sont les mêmes toujours: Avot, Gvurot et Kedusha, qui sont les mêmes toute l'année, quel que soit le jour, que ça soit Shabbat, Yom Tov ou Chol. Et vous avez les trois dernières: Avoda, le culte, la Odaa, le remerciement, et le Shalom. Donc qui sont les mêmes. Ce qui change, ce qui varie, c'est la partie médiane, qui, dans un jour de Chol, est constituée de 13 brachot, et dans un jour de fête, est constituée qu'une seule bracha. Shabbat, on a donc une bracha qui, la conclusion est toujours la même, mais change en fonction, on est à Arvit, à Shacharit ou à Mincha. Les jours de Yom Tov, eh bien, c'est toujours la même, quel que soit, sauf Moussaf qui sera différent. Et Rosh Hashanah et Kippour, on a aussi la même structure. Et donc là, on est en train de nous dire que le jour de Kippour, on fera une Amida qui aura sept brachot, logique, puisque c'est un Yom Tov. Au Mitvadé, on a l'obligation de se confesser après la Amida, comme vous savez, avec les vidouilles et les alhet qu'on fait après. Donc, alors qu'est-ce que dit la Braïta? Elle dit que, donc, le or de Yom Kippour, je traduis pas pour l'instant ce que veut dire le or de Yom Kippour. Donc, le or de Yom Kippour, on fait la Amida, les sept brachot, et on se confesse de ses fautes. Ah, Moussa, ben Moussa, mitpalel, sheva, mitvade, ben Mincha, mitpalel, sheva, mitvade. Il y a un truc de Neila qui est dans... Pardon. Besharit, excusez-moi. Donc Besharit, mitpelel sheva mitvade, bemusa mitpelel sheva mitvade, bimilcha mitpelel sheva mitvade. Dans notre girsa qu'on a dans Psachim, il n'y a pas le Ne'ila, mais dans la version qu'il y a dans Yoma et dans les autres versions, il y a Ne'ila, parce qu'il y a aussi un Ne'ila où il y a sept au mitvade. Be'arvit mitpelel, mais ein shmone asar. Donc, le matin, on prie une amida de sept brachot et on se confesse. À Moussaf, on prie l'amida de sept brachot et on se confesse. À Mincha, on fait l'amida de sept brachot et on se confesse. On fait aussi la Ne'ila, mais qui n'est pas là, mais c'est pas dans notre girsa ici, mais elle se trouve dans notre girsa haute. Et là, la prière du soir, c'est Arvit. On prie une amida qui est un abrégé des 18 brachot, c'est-à-dire Tfilat Avinenu. C'est en fait, il y a trois brachot qui introduit, trois brachot qui conclut, et au milieu, il y a un résumé, chaque phrase, elle correspond à une bracha. Alors, on va dire pourquoi, il y a une question, pourquoi est-ce qu'on sort de Kippour, on fait un résumé de l'Amida? Alors, Rav, il dit, Torah Tzibour, Rachid, oui. Mais il y a un pshat qui peut être, on est dans la continuité de Kippour. Et donc, à continuer de Kippour, on est un petit peu comme une sorte de Yom Tov. C'est pour ça qu'on va voir cette brachot. Voilà, donc,
on continue comme, c'est comme Kippour.
Comme Kippour. Maintenant, l'alakha n'est pas comme ça.
C'est comme la suite.
Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer, Mishum Avotav. C'est pas Mishum Rabotav, Mishum Avotav. Donc, Rabbi Hanina ben Gamliel a dit au nom de ses pères, Mitpalel Shmona Asar Shlemot, Rabbi Hanina ben Gamliel dit, rapporte au nom de ses ancêtres, on prie la totalité des 18 brachot durant la prière du soir, car on doit prononcer la Havdalah dans la bénédiction de celui qui gratifie la sagesse, comme je dois dire la Havdalah dans Chonen Hadaat. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire toute la Amida entière. Ah, vous allez me dire, on n'a qu'à faire juste la bracha de Atachonen Adamnat. Non, ça c'est pas. Si on fait le résumé, c'est le résumé de tout. Ah, on n'a qu'à faire une phrase qui va être aussi une l'Avdala. On n'a qu'à dire, en une phrase, on peut... Ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que on peut pas faire l'Avdala une bracha à part entière. Ça peut pas être, c'est une marloquette dans la base. Mais donc la halakha est que l'Avdala ne peut pas être une bracha à part. Elle est... Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que la Havdala, le discernement, il faut dû à la sagesse. Elle rapporte avec le discernement. C'est entre le jour et la nuit. C'est
un mixte facile. Mais entre les goy et les juifs, c'est pas mariage mixte.
Et il y a une autre chose aussi, parce que c'est la première bracha de Chol. C'est la distinction entre une amida de Shabbat et une amida de Chol, elle commence avec Atachonen. Donc, si on avait mis une phrase, ou Mavdil ben Kodesh et Chol, donc j'aurais pu penser que ça va être comme une bracha à part de l'Avdala. Or, l'Avdala ne peut pas être une bracha à part. Donc, maintenant, pour se résumer sur cette question, on nous a dit, hors de Yom Kippour, on fait sept brachot et mitvadé. Shacharit de Yom Kippour, sept brachot mitvadé. Alma, orata, shma, shmamina. Donc, puisque, quand on m'a dit hors, c'est pas Shacharit.
Shacharit, Mincha, Moussa,
on a tout dit. Qu'est-ce qu'il nous manque? Karvit. Donc, or, ça peut être Karvit. Donc, or, Alma, or, Orata, Hush, Mamina. Donc, nous voyons donc que or est employé dans le sens de nuit. En effet, apprends-le de la...
On le dit tellement, on n'a plus besoin d'Agmara. On n'a plus besoin d'Agmara.
J'ai une question, en fait.
Oui, pardon.
Là, je disais que or, ça veut même plus dire la nuit, ça veut dire la veille. Parce que si on avait dit ça veut dire la nuit, on a dit Marvit pour le lendemain.
Non, on n'a pas dit Arvit. On n'a pas dit Arvit. Non, on a dit or, Shacharit, Moussa.
Berbit, si on avait dit pour Motsai Yom Kippour.
Ah, Motsai Yom Kippour, oui.
Ça veut dire la veille, ça veut pas dire nuit, ça veut dire en plus la veille, parce que la nuit, on aurait...
Non, la veille, non, on peut pas dire la veille, parce qu'on fait Arvit de Yom Kippour, c'est pas la veille, c'est la nuit.
Le soir,
on appelait le soir.
Et là peut-être il y a quelque chose dans votre remarque. C'est qu'on pourrait dire que quand on rentre et qu'il y a une mitzvah qui nous intéresse, comme par exemple la Bdikat Hametz, comme l'entrée de Kippour, la nuit devient jour. Et ça s'appelle or. Alors que quand je sors de Kippour, ça devient arbitre.
Voilà. Je voulais dire ça. Ouais. Il y a un paradoxe intéressant, ouais. C'est que Or qui est la lumière, et Urta qui est l'ennemi, dans le mot Urta, il y a le mot Or.
Exactement, et bravo.
C'est vraiment... Ouais.
C'est bravo, c'est comme ça que disait Farchim, que le mot Urta vient du mot Or, c'est la nuit.
Ça c'est... Et maintenant, on arrive à la huitième question, le coup de grâce. Puisque, et la vérité, vous auriez pu poser la question, on avait qu'à commencer avec ça, et on aurait court-circuité toutes les... Et on n'aurait pas appris tout ce qu'on a appris. Et donc, c'est comme a dit le Rav, l'Agmara, c'est une formation, c'est un cheminement qu'on doit avoir pour comprendre et apprendre et se former à réfléchir. Donc, c'est pour ça, en fait... il y aurait, si on voudrait approfondir, voir comment sont structurés tout le cheminement de toutes les sept premières questions qui amènent en fait à la huitième, et les sept ont une progression. Mais bon, on a, faut qu'on avance. Donc sinon on va faire un quart de daf sur trois jours. Et encore. Donc maintenant, huitième question. Tashma, Detane, Deve, Shmuel. Lele arba'asar bodkim et hachames leoraner alma or oratahu. On a opposé à Ravuna la braïta suivante. Viens, apprends à partir de ce qui a été enseigné à la yeshiva de Shmuel. Deve, c'est la maison, c'est la yeshiva de Shmuel. Les nuits du 14 Nissan, on cherche le chametz à la lueur d'une bougie. Alors là, c'est marqué en toutes lettres. Lele arba'asar. Donc, les nuits. Pourquoi lele, pourquoi pas lele? Bon, en tout cas, les nuits du 14, on cherche le chametz à la lumière d'une bougie. Donc, or uratahu. Donc, or, c'est bien le sens est employé dans le sens de nuit. Alors donc maintenant, avec ce coup de grâce, il est clair que dans notre Mishnah qui a marqué or l'arba asar bodkim et hachametz leoraner, dans la phrase en elle-même. Il y a une contradiction, je ne sais pas si vous l'avez certainement peut-être dit, c'est que on commence avec or l'arba asar bodkim et hachametz le or aner. Il y a deux fois le mot or, et une fois or ça veut dire le soir, donc la nuit, et le deuxième or c'est la lumière de la bougie. Donc dans la phrase elle-même il y a quelque chose, et peut-être que l'un c'est la réalité de la nature, c'est la nuit, et l'autre c'est ce que l'homme allume, et donc l'homme il doit savoir mettre de la lumière dans la nature. Bon, maintenant, donc maintenant avec cet aspect, donc maintenant il est clair que ce soit Shmuel, c'est
Amora.
Amora. Oui, Shmuel c'est des Morchosa.
Non, parce que
là c'est une Mishnah. À la fois c'est
non, la Yeshiva de Shmuel, c'est pas Shmuel, c'est une Mishnah.
Ah, right. Et puis en plus de ça, c'est Mefourache par rapport à toutes les autres démonstrations. Ça nous parlait d'autres sujets. Donc on avait une démonstration, on va dire, technique. Or, on le peut déduire que c'est la nuit. Donc on le déduisait que c'était la nuit. Mais maintenant, que chez nous, ça soit aussi la nuit, on aurait pu encore trouver une sortie. Mais là, c'est le même din. C'est l'abdikat hametz dont il est question. Donc c'est le même din qu'on a dans notre Mishnah. Et donc on nous reprend le même din avec les termes différents. Donc là c'est le coup de grâce, parce que là il y a plus à en sortir. D'ailleurs, après ça, la Gemara ne va pas redonner d'autres questions.
Oui, parce que là il met Laila, ou parce qu'on parle de lueur d'une bougie, et de la lueur on déduit que c'est la nuit, parce qu'on pourrait dire qu'il est dans le feutré sans fenêtre.
Oui.
C'est comme ça, c'est parce que c'est
Laila. Non, l'air bas ça, bien sûr. Parce que sinon c'est comme ça, mais de la Mishnah elle-même on aurait pu prouver. Parce que la Mishnah est marquée, l'oraner. Donc maintenant, on va arriver à la conclusion qui va remettre en question la base de ce qu'on pensait être une discussion entre Rav Yehuda et Ravuna. Et là, ben Ravuna, ben Rav Yehuda, découle alma or uratahu, velo pligé, mar qui a trait, ou mar qui a trait. Et en fait, la Gemara conclut qu'il n'y a pas de discussion entre Ravuna et Rav Yehuda. Il faut plutôt dire qu'à la fois pour Ravuna et Rav Yehuda, or est employé dans le sens de nuit, et donc ça veut dire qu'on fait l'abdika le soir. Et on fait pas l'abdika le matin, comme on aurait pu penser. En fait, chacun s'est exprimé comme on s'exprime dans sa région, c'est-à-dire, Beatre de Ravuna, Karunage, ou Beatre de Rav Yehuda, Karulele. Dans la région de Ravuna, on appelle la nuit lumière. Et dans la région de et celle de Rav Yehuda, on l'appelle nuit. C'est-à-dire que dans la région de Rav Yehuda, on n'hésite pas à appeler la nuit, nuit. Alors que Rav Huna, lui, il a besoin de l'appeler lumière. Pourquoi ? Parce que Rav Yehuda, il a, dans son nom, il a le nom d'Hachem. Et avec le nom d'Hachem, il y a toujours, la lumière. Donc, il peut appeler la nuit, c'est pas, il n'est pas gêné. Bon, ça c'est... Alors, maintenant, question un peu générale. Vetana didan, maïta malokatan elele. Alors maintenant, si c'est comme ça, on a une braïta qui dit la nuit.
La question.
La fameuse question. Pourquoi on n'a pas dit les choses clairement à la nuit? Et c'est, on aurait gagné un daf, on aurait perdu un daf de Gemara.
Heureusement qu'ils n'ont pas fait comme ça.
Heureusement qu'ils n'ont pas fait comme ça. Et on va voir là, on va dire le clou de ce à quoi notre Maseret nous invite et ce qui est le principe de Pessah. Lishnam alia hu denakat ok de Rabbi Yehoshua ben Levi. Notre Tana s'est servi d'une expression raffinée et cela est en accord avec l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. En fait, ici, on a commencé avec le mot or parce que il y a un raffinement dans l'expression qui doit s'exprimer dès le début, comme on dit petach devarecha yair. Le début de ta parole est lumière. Hein, c'est marqué dans Tehilim. On voit que, normalement, en plusieurs endroits, on aurait pu avoir autre chose que de la lumière en début. Par exemple, oui.
On dit que c'est lié à l'enseignement de Rav Yehoshua ben Levi, mais si je me rappelle bien, Rav, c'est des Amoraïm. Les Amoraïm sont postérieurs.
Qui est des Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est Rabbi Yehoshua ben Levi.
Ah, c'est marqué Rav Yehoshua ben Levi.
C'est une faute.
Non, c'est Rabbi ou Rav?
Rabbi Yehoshua.
C'est Rabbi Yehoshua.
Oui, sinon il serait postérieur.
Rabbi Yehoshua ben Levi, de toute façon, c'est comme un Tana.
C'est pas traduit,
donc.
C'est pas indélicat de dire Leïla.
Alors c'est pas mégouné de dire Leïla.
C'est moins joli, on va dire. C'est moins raffiné.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas mégouné, mais quand on est en début, quand on est en commencement, alors c'est pas top. Alors c'est vrai, c'est comme ça, c'est ramené comme ça. C'est le Balamor qui dit que c'est pas mégouné, dire Laïla. Mais comme on est on est en train d'ouvrir la Maseret, en plus de ça, comme le dit, je crois, Rabbi Tzadok HaKohen, tout le Inyan de Pessah, c'est Inyan du Dibour, Pessah, la bouche qui parle. Et donc il y a tout le lien. Vous avez peut-être développé ça. Non, c'est tout. Donc le fait qu'il y ait une bonne parole, qui c'est le principe de Pessah. On voit que les mitzvot, c'est Vigat Talvinecha, tu raconteras ton fils. C'est les mitzvot du Hallel. Il y a une importance par rapport à la parole. Et on le dit donc. Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, on ne doit pas sortir une chose indélicate de sa bouche parce que le verset a fait une sorte de périphrase avec 8 lettres, et pour ne pas dire quelque chose qui était indélicat, en disant, au lieu de dire minabema atmea, la bête tmea, la bête impure, alors en fait atmea ça aurait fait 5 lettres, et il y a marqué asher eneina teora, ça fait 13 lettres. La différence entre les deux, ça fait 8. Bon, il y a un petit souci, parce que si on écrit comme c'est marqué, asher eneina teora, pour que ça fasse 8, il faut que Théora soit écrit avec un vav. Or, dans notre Chumash, il est écrit sans vav. Bon, alors ça c'est...
Enanubikin,
et le Ramban dit, dans son introduction à Bereshit, que la Torah chez Motav, chez Akadosh Baruch Hu, donc il y a des choses qui nous dépassent. Maintenant, il arrive des fois qu'entre la version qu'on retrouve dans la Gemara et la version qu'on a, il y a des fois des petits décalages. Okay. Comme on trouve. Donc
Chaque Atari qui a pu aujourd'hui la mitzvah d'écrire sur toi.
C'est pour ça que Chaque Atari dit qu'aujourd'hui la mitzvah de Sefer Torah, c'est à travers les Sfarim. Ouais. C'est qu'on va pouvoir étudier. Donc maintenant, pardon? C'est vrai, c'est ce qu'on va dire plus tard, mais je vous ferai remarquer que le mot tamé ne va pas apparaître jusqu'à Bereshit chapitre 34. C'est-à-dire dans tout le texte de Noach, il n'y a pas marqué le mot tamé. Non seulement il n'y a pas marqué le mot tamé, je fais une petite recherche, c'est que pour retrouver la succession des lettres, tête même à lèvres qui va faire tamé, même si c'est pas le mot tamé, on le retrouve, vous savez, on le retrouve dans l'histoire de Lot quand ils sont à Sodome. Vaïgeshu, vaïfseru baish belot meod vaïgeshu lishbor adalet. Adalet. Ils sont quand Lot a reçu les invités, les deux malachim, les gens de Sodome ont entouré la ville et ils ont voulu briser la porte. Et marqué vaïfseru baish, ils ont pressé l'homme belot meod. Dans Lot meod et les lettres Lot, la dernière de Lot, c'est tête. Mais Ot, ça fait même Aleph, ça fait Tamé. Donc c'est sa première apparition. Et la deuxième fois, c'est Vatarena, Chete Benot Lot, Mevien. Chapitre 19, verset 36. On retrouve encore Tamé quand on parle de la naissance que Lot va avoir avec ses filles. Et la première fois où c'est marqué Tamé en toutes lettres, c'est quand Yaakov apprend que Vaishma. Yaakov Shama qui timait Dina Bito. Il a entendu qu'on a rendu impur sa fille, qu'on a déshonoré sa fille. Et la deuxième fois où il y a marqué dans Bereshit Tamé, c'est quand Asher timait Dina Chotam, c'est à propos de Dina. Vous ne retrouverez aucune fois le mot Tamé dans tout Bereshit à part ces deux fois, et zéro fois dans Shemot. On n'imagine pas, on se dit bah, Tamé, on retrouve. Non. Même pas la succession de tête, même Aleph, vous ne le trouverez pas dans, à part ce que je vous ai cité. Et dans Shemot, c'est zéro. Le premier, c'est dans Vayikra, chapitre 5, où là, on parle de mot tamé. Donc, on voit que la Torah, elle a évité d'utiliser le mot tamé. Et alors, en plus de ça, quand on parle de l'histoire de Noah, c'est tout l'union du Lachon. Puisqu'on sait que les dimensions de la Teva, elle était de 30 coudées, de 300 coudées, de 50, ça fait Lachon. Donc c'est tout l'union du langage et ça colle complètement avec Pessah, hein, puisqu'on sait que la génération qui est sortie d'Égypte, c'était la génération qui était en fait du déluge. C'est pour ça qu'il y a une partie qui a été Moshe a été sauvé dans une teva, comme donc il y a une similitude entre Noah et Moshe. Donc donc la sortie d'Égypte, elle est complètement liée avec ça. Et en cela, il y a quelque chose qui est remarquable et que je voulais vous faire partager sur une petite digression comme ça voilà. Alors on nous dit donc le premier, alors, et là on va voir il va avoir une surenchère sur les lettres qui vont être utilisées pour ne pas dire quelque chose qui est mégouné. Donc la première chose, ça va être donc, pour pas dire Tamea, la Torah dit Minabema Sher Enina Tehora. Maintenant, je me permets juste peut-être de vous raconter une petite chose que j'avais entendue du Rav Rosenberg, Zatzal, qui avait dit, en fait, pourquoi ici a marqué Sher Enina Tehora, et voilà. Après tout, il y a les autres endroits où il y a marqué Tamé. Alors, il avait raconté une petite histoire, je crois que c'est un magi de Douvna. Il y avait dans une ville deux Moïshé. Il y avait un Moshe qui était un notable de la ville, etc., très riche, etc. Et puis il y avait un Moshe, le pauvre, c'était un shlemaz, il avait pas beaucoup de trucs. Et un jour, le facteur, il était malade, c'est un autre facteur qui a amené le courrier, et il a vu Moshe, et puis il savait pas qu'il y avait deux Moshe. Donc il est venu chez Moshe le riche, et il a amené la lettre, en fait c'est une lettre qui s'adressait au Moshe le pauvre. Et alors il arrive, et puis alors c'est le domestique qui ouvre la porte, et dit, le domestique, il dit, et puis il voit que c'est une lettre d'huissier, machin, il dit, mais comment vous permettez d'amener une lettre comme ça à Moshe, mon patron, mais ça se voit que ça s'adresse à Moshe le pauvre, et etc. Et puis il commence un peu à le déblatérer, quoi, à dire, c'est pas la bonne adresse. Bon, le facteur a dit, excusez-moi, je me suis trompé, donc il s'en va. Et le patron, il arrive et il dit, dites-moi, comment vous avez parlé au facteur? Il dit, il s'est trompé d'adresse. Il dit, mais vous auriez pu dire, c'est pas la bonne adresse, il faut qu'il aille... voilà, il y a deux Moshe dans la ville, il y a un Moshe et puis l'autre Moshe, c'est l'autre Moshe. Vous n'allez pas commencer à raconter votre vie. Ah, il dit, bon, le patron, il a toujours raison, donc... quelques temps plus tard, il y a un chatran qui arrive et qui vient proposer, qui veut voir Moshe le riche, et veut lui proposer pour sa fille un garçon qui, bon, comme ça, quoi. Et puis elle leur dit, voilà, on a un garçon, bon, il est bien, etc. Et là, c'est quoi, de quel garçon? C'était le fils de Moshe le pauvre. Et alors là, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais comment? Vous pensez que moi, je vais m'allier au mariage de ma fille avec ce monsieur, bon, il est respectable, mais c'est un pauvre type. Il a dit 10 fois plus que ce qu'avait dit le domestique qui était derrière, quand le chatran est parti, il est arrivé, il a dit, est-ce que je peux poser une petite question, comme ça, juste, je veux pas vous offenser, patron, mais quand moi j'ai dit même pas le dixième de ce que vous avez dit, vous m'avez dit, c'est pas comme ça qu'on parle, etc. et tout. Et là, je vois, vous avez mis. Et là, le patron dit, je vais t'expliquer. Si arrive un facteur, il se trompe d'adresse. Bon, il s'est trompé d'adresse, c'est pas. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais si maintenant, c'est un chatran qui vient pour proposer un. Alors, on connaît les chatranim, comment ils fonctionnent. Ils lâchent pas l'histoire. Et si c'est pas comme ça, ils rentrent pas par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Il fallait marquer un grand coup pour dire, c'est pas la bonne adresse. Et là, il fallait que les choses soient bien claires et que ça soit bien précis. Alors, c'est un peu la même chose. Ici, quand il s'agit de sauver les bêtes, en fait, il fallait 7 coupes pour faire des corbanotes. Maintenant, il y avait des autres bêtes qui ne sont pas théorotes. Ça m'intéresse pas de savoir si c'est tamé. Mais quand, par exemple, on va dire qu'une femme est taméa, on va dire une bête est taméa, qu'on ne peut pas manger, la Torah, elle doit pas s'encombrer de circonvolutions et de périphrases. Tamé, c'est clair, c'est net, il faut pas discuter. Tu vas pas quoi dire. Mais c'est pas vraiment tout à fait, c'est pas taor. Non, ça doit être clair. Et donc c'est ça, et j'avais entendu du Rav Rosenberg, c'était un petit peu la façon d'avoir un hommage pour au Rav Rosenberg. C'est ça. Donc on a dit, alors on a une première démonstration qui est avec 8 lettres. Après Rav Papa Mar Teisha Shenemar qui est Becha Ish Asher Lui Eta Or Mikre Laila. Rav Papa dit, la Torah a ajouté 9 lettres. On n'est pas 8, on est même 9. Quand on a dit, s'il y a parmi vous un homme qui ne soit pas pur à cause d'un incident de nuit, il y a eu un écoulement, et là-bas il y a marqué Asher Loyer Taor, donc c'est plus 8 lettres mais c'est 9 lettres. Et puis on va encore sur en chair. Ravina Amar Ravina dit non, 10 Vav de Taor. Ravina dit non, la Torah a ajouté, c'est pas 9 lettres mais c'est Asher Loyer Taor. Hein, vous rappelez, quand il y a marqué Asher Lui et Tahor, ça peut s'écrire sans Vav ou avec Vav. Alors, c'est avec Vav, donc c'est avec le Vav de Tahor, donc c'est pas 9 lettres qui a été rajouté, mais il faut compter le Vav de Tahor, et donc ça fait 10 lettres. Ravacha bar Yaakov Amar, Shesheshre. Non, mais j'ai encore mieux. J'ai 16. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi on n'a pas dit les 16 depuis le début? Alors, attendez. Donc, Rabbi Yaakov dit, Shesheshre, d'abord on va voir la Seoul, chez Neymar, qui a mar mikre hu bilti taor, hu, qui lo taor. Rabbi Yaakov dit, la Torah a ajouté 16 lettres, comme il dit, c'est un incident qu'il y a eu, et donc il n'est pas pur, car il ne s'est pas purifié. Et donc là, vous allez me dire, alors, on n'avait qu'à donner directement cet exemple à 16 lettres, sauf que là, c'est d'abord dans le Navi, c'est pas dans la Torah, donc c'est pas une preuve aussi puissante que dans la Torah. Et puis, c'est un homme qui parle. C'est même pas un Navi qui parle, c'est Shaoul. Alors Shaoul, il est connu pour être un grand sadique. Et il est connu pour être aussi assez tsanoua. Shaoul, il a été nommé roi. Et il rencontre son père. Il dit pas à son père, j'ai été ou un roi. Donc il avait une façon de s'exprimer qui est particulière. Alors on pourrait dire que c'est pas forcément une preuve pour tout le monde de s'exprimer comme ça. Donc on pourrait dire que lui il a dit parce que ben c'est lui et c'est pour ça que c'était pas la meilleure preuve. Tanya de Rabbi Ishmael Leolam. Donc maintenant on va partir sur une autre preuve pour parler de que la Torah parle dans un langage propre et va faire même des distinctions, on va dire Tania, Devera Bishmel, Lola Misaper Adam Ilchonekia, Shah Rebezav Karo Merkav, Uvisha Karo Moshav. On a enseigné la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Un homme doit toujours parler un langage raffiné. Car pour le Zav, la Torah nomme équipement de cavalier, alors que dans le cas de la femme, d'une femme, la Torah le nomme de siège. En fait, c'est quoi Merkav? C'est chevaucher avec une jambe d'un côté et une jambe de l'autre. C'est pas beau pour une femme de s'exprimer comme ça. Une femme, elle s'assoit à l'Amazone. Donc elle s'assoit, elle ne chevauche pas. Et donc, et la Torah, quand on va parler du Zav en fonction d'un endroit où il va se trouver, on va parler de Merkav, donc du chevauchement quand il s'agit d'un Zav, parce que c'est pas gênant. Mais quand c'est la femme, il va dire Moshav. Donc, quand on parle d'une femme, c'est Moshav. Ve'omer, ve'tivrach, lachon arumim, ve'omer, ve'da'at, sefatai, barur milelu. La Braïta cite deux autres sources. Tu aurais dû choisir le langage des sages. Et elle dit, mes lèvres ont exprimé un savoir raffiné. En fait, à la base, j'aurais pu croire que il faut que ce soit un langage raffiné quand c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est Kadosh. Donc quand c'est la Torah qui est Kadosh, là, il faut que ce soit avec un langage raffiné, très, très, très fin. Maintenant, quand les Chachamim parlent, alors c'est pas obligé peut-être que ça soit aussi raffiné. Parce que bon, ce sont des hommes qui parlent et qui mettent la parole de la Torah. Ah, tu dis non. Tu choisiras lachon. Le lachon, c'est le langage de la Torah Sheba Alpé. C'est la Torah orale. C'est le langage. Donc lachon arumim. C'est intéressant parce qu'ici on a transformé le arumim de arum du serpent qui devient maintenant positif et qui est le lachon des chachamim. Veomer vedaat sefatay. Alors qu'est-ce que j'aurais pu penser? Bon, alors ça c'est vrai qu'on parle de Torah, mais quand on parle d'ivrei chol, quand on parle de choses de tous les jours, est-ce qu'il faut aussi avoir un langage qui soit aussi propre, oui, parce qu'il y a marqué Vedat Sefatay, de mes lèvres. Donc c'est ma façon de m'exprimer. C'est mon histoire. Même quand c'est chol, il faut s'exprimer avec propreté et avec un raffinement dans la parole. Alors maintenant,
c'est ce que tu viens de dire, la grammaire de dire tout.
Mais j'aime bien comme ça, ça.
Ça, bon. ça et puis, moi, je crois que toi.
Ah bon, alors, ça va aller. Je prends mes lettres. Donc, Maï Veomer, ça veut dire quoi? Pourquoi, en fait, on ajoute les deux autres sources? Rite mané mile bedeoraita, aval bedebara banan, lo, tashma veomer, betivrach le shon arumim. Car, c'est ce qu'on a expliqué. Si tu dis que ces paroles indiquent seulement qu'un discours raffiné est nécessaire, que dans les versets de la Torah, mais dans les enseignements rabbiniques, c'est pas nécessaire, viens, prends une seconde preuve, et il dit, tu aurais dû choisir le langage des sages. Veritema nemile de rabanan, aval bemile de almalo, ve omer, vedaat sefatai, barur millelu. Donc, et si tu dis que les paroles indiquent seulement le langage raffiné, n'est nécessaire que dans les enseignements des sages, mais pas pour le sujet ordinaire, vient prendre une troisième preuve, où il dit, mes lèvres, ces fatailles, ont exprimé un savoir raffiné. Alors maintenant qu'on nous a dit, ah ben c'est bien, donc on a dit, la Torah, elle est claire, quand elle parle d'une femme, elle parle de Moshav, mais quand elle parle de l'homme, elle parle de Merkav. Donc on trouve jamais, qu'une femme, c'est Merkav. Et voilà, qu'il y a marqué, Obishal Oktiv Merkav, Veaktivata Komrivka Venaroteya, Vatirkavna la Gemalim. Et à propos d'une femme, est-il vrai qu'il n'est pas écrit le terme chevauché, et pourtant il est écrit à propos de Rivka. Rivka, c'est une femme jusqu'à présent. Et elle va avec ses jeunes filles, ce sont des femmes, et a marqué, elles chevauchèrent les chameaux, Vatirkavna à la Gemalim. Donc, tu vois que le mot chevauché a été appliqué, femme, et quelle femme? Et une des mères d'Israël. Donc, c'est pas possible. Réponse. Hata mishum berituta de gemalim, orhai. Là-bas, à cause de la frayeur qu'on a du haut des chameaux, il est normal qu'une femme se mette à califourchon. C'est-à-dire, comme le chameau, c'est haut, et puis ça se dandine, etc. Alors, si la femme s'assoit à l'Amazone, elle s'assoit, elle risque de tomber. donc elle a peur de tomber, donc elle s'assoit, elle chevauche, elle s'assoit à califourchon sur le gamel. Donc c'est spécial, c'est pour ça. Donc ça veut dire que normalement on ne dit pas que la femme chevauche, mais quand on a un chameau, alors à chaque fois qu'on aura un chameau, il peut et que c'est une femme, on ne sera pas surpris que ce soit qui est marqué Betir Kavna.
Ah, mais attends. Le même Rachel, à un moment donné, quand elle part avec Yaakov, elle ne chevauche pas, elle est en amazo sur les chevaux.
Rachel, non. C'est Moshe, avec Tzipora. C'est la suite de la Gemara.
Non, je ne parlais pas de Moshe.
Rachel,
quand elle quitte son frère Laban, elle part, elle est assise, elle avait caché les idoles.
Mais sur la selle sans animaux. C'est pas sur les animaux, c'est la selle sans les animaux.
Alors maintenant, après on nous dit. Alors maintenant, on va mener une autre question qui où on va pas parler de chameau, parce que si c'est un chameau, on sait. Mais non, ce sera pas un chameau. Il s'agit de. Patrick, prends la technique. C'est pas ma faute, j'ai rien à faire. Ah, ça y est.
C'est bon.
Vous êtes du fluide.
Je vais rester là.
Et pourtant il est écrit, puis Moshe prit sa femme et ses enfants, et il les fit chevaucher sur l'âne. Et à qui y a Tzipora et ses enfants. Donc on voit que Tzipora, elle a chevauché, et là il ne s'agit pas d'un chameau, il s'agit d'un âne. Donc on n'a pas le problème. Réponse. Hata Mishumbana Vurchaou, là-bas, puisque ses fils voyageaient avec elle, il est normal de dire qu'ils ont chevauché. Hein, donc, en fait, c'est les enfants qui ont chevauché. Elle s'est assise. Elle n'a pas chevauché sur le truc. Maintenant, vous allez me dire, quand on a homme et femme, eh bien, c'est le masculin qui l'emporte. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé, de la même façon qu'on accorde au masculin, de la même façon, on va dire, va yerkivem, on n'a pas dit, va yéchevou, parce qu'on aurait pu dire, va yéchevou tous. Non. Puisque les enfants, eux, ils ont chevauché. Donc c'est pour ça que c'est normal. En plus de ça, ils sont deux. Donc comme ils sont deux, enfin bien que l'un était tout petit bébé. Donc bon, je m'hasarde pas là-dessus. Mais...
Ce qui nous choque, dans cette expression chevauché,
c'est
le fait que ce soit une femme qui le fasse,
oui,
dans une position indélicate.
Oui. Non. Non, c'est-à-dire, c'est indélicat, donc elle va l'éviter. Mais maintenant, il peut avoir des raisons pour qu'elle le fasse quand même, parce que, il y a une raison. Si c'est un chameau, c'est haut, et donc elle risque de tomber. Donc, elle va pas s'asseoir sur le chameau, elle va le chevaucher. Donc, pour le chameau, c'est
non, raisonné. La réponse est comme ça, comme il dit Rav, pour une femme, jamais elle a le droit de chevaucher un cheval, sauf dans un cas où elle est en danger, pour une raison ou une autre. Mais si elle n'est pas en danger, une femme, elle monte à cheval à califourchon. Et la Torah, des fois, elle utilise qu'elle a chevauché parce que c'est délicat et que c'est vrai, elle ne veut pas mentir. Et on a le droit de le faire. Mais sinon, c'est interdit de le faire. La Torah ne veut pas dire que c'est ce qui est interdit.
Vas-y. Bon. Maintenant.
Vas-y.
Donc maintenant, Vehakti, Vehiro Chevet, Al-Hamor. Et voilà qu'à propos d'Avigaïl, quand elle est venue voir David pour essayer de réparer l'indélicatesse que Naval, son mari, avait fait, alors il est marqué, elle l'a chevauché un. Alors, et pourtant, il est écrit, et pendant qu'elle chevauchait sur l'âne, Avigaïl, cette déquête, elle chevauchait sur l'âne. Et donc là, il n'y a pas de garçon, donc je ne peux pas la réponse que j'ai dit pour Tzipora. Et il s'agit bien d'un âne, c'est pas un gamal. Hata, Mishumbiru, tout de l'Elia. Orcha ou là-bas, à cause de la crainte de la nuit, il est normal qu'elle s'asseye à califourchon. En fait, comme c'était la nuit, et que la bête elle peut buter sur quelque chose, donc elle risque de perdre l'équilibre. Donc, c'est à cause de la crainte de la nuit, là, elle va bien s'agripper sur le sur l'âne, et donc elle va pas s'asseoir simplement, elle va se mettre à quel fourchon?
Ça c'est
Alakha. Je laisse le Rav. Est-ce qu'une femme peut monter sur une moto?
Ender Nashim Lerkov ala sur des vélos et des trucs.
C'est pas Ender Nashim, le Rav a dit. Ça se fait. Hein.
Oui, mais ça c'est Bikur Nefesh, il voulait tuer. David voulait tuer Naval. Oui, elle est venue sauver son mari.
Son mari, donc c'est urgence.
Il y avait une urgence. Il est venu avec toute son armée tuer Naval.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Naval a, il avait. Alors, deuxième réponse. Donc deuxième réponse. Veiba itema mishumi tuta de Lelia lika mishumi tuta de David lika. Si tu veux, je peux te dire. Il n'y a pas la problème, la crainte de la nuit. Cela n'était pas une raison suffisante pour qu'elle s'asseye à Califourchon. Par contre, il y avait, à cause de la crainte de David, cela était une raison. C'est-à-dire que, elle va voir quand même David qui était un général d'armée et qui était avec ses hommes. Et là, il y avait une crainte que peut-être il faut qu'elle parte en précipitation. Et donc, la crainte de David justifie qu'elle se met à Califourchon. Troisième réponse. Vibatima, bietuta de David Nami Lika, Michou Mituta de Har Ika. Et si tu veux, je vais te dire que la crainte de David non plus n'était pas une raison suffisante, mais à cause de la crainte de la montagne, cela était une raison. Donc, comme c'était la montagne, et donc ça revient, donc ça monte, ça descend, et donc ça revient un petit peu à quelque chose comme l'histoire du gamal. Donc il y a un problème de hauteur, de risque de tomber. Et donc, alors là, on aurait pu dire aussi, on aurait pu dire le har en premier. Et comme ça, on avait, bon, mais enfin, mais comme ça, on a appris deux choses en même temps. Alors maintenant, la question que vous avez posée, c'est la Gemara qui va maintenant poser, elle va dire quoi? Tu m'as dit que la Torah, elle a dit, Asher Ibrahim Asher Inena Torah, la bête, qui n'est pas pure. Donc elle va pas dire tamé. Vea, veoraita, miloktif tamé. Et dans la Torah, le mot impur n'est-il pas écrit? Et pourtant, la Torah mentionne ce mot de nombreuses fois. Donc c'est pas. C'est pas une règle. Réponse. Et la kolechad echiad adeninhu mishtaei bilshon nikia qui kol echad enafiche mile mishtaei bilshon ktsara. Plutôt, il faut dire, à chaque fois qu'elles ont la même longueur, la Torah emploie l'expression raffinée. Mais chaque fois que l'expression raffinée est plus longue, la Torah emploie l'expression la plus concise. En fait, on va avoir deux principes qui vont à la fois des fois s'opposer et qui vont nous permettre de décider comment on doit s'exprimer. Soit on doit s'exprimer d'une expression raffinée, mais il peut avoir une autre exigence qui est l'expression la plus concise. On va voir que quand on enseigne, il faut préférer l'expression la plus concise parce que c'est celle que l'élève va plus facilement retenir. Si on fait des longues phrases, etc., on comprend pas exactement. C'est plus difficile à comprendre. Donc c'est mieux derer ktsara, ce qu'on appelle donc le résumé, la phrase concise est plus précis. Alors si on a le même nombre de mots, le même nombre de lettres, etc., alors on choisira le plus raffiné. Mais si maintenant on a pour faire une phrase, alors il faut faire toute une périphrase, vaut mieux dire quelque chose clair, net. Et alors vous allez dire, c'est pas derrière Sarah. Une fois la Torah a voulu nous montrer, on sait ce qu'on va voir. Donc, qu'est-ce que Amaravuna, Amarav, Veamrele, Ravuna, Amarav, Mishum, Rabbi Meir, Lola, Mishine, Adam, et Talmido, derrière Sarah. Cela est en accord avec ce que Ravuna a dit au nom de Rav, et certains disent que Ravuna dit cet enseignement au nom de Rav, qu'il l'a dit au nom de Rabbi Meir. On voit ici la précision, c'est quelque chose de fondamental. Donc on nous donne jusqu'au Tana qui l'a enseigné. Un homme doit toujours enseigner à son élève de manière concise. C'est pour ça que je vous fais un petit résumé toujours avant, et puis après on rentre dans le texte. Ah, si c'est maintenant comme ça que on doit derech tsara, vechol echad echiad adeninu mishtaei bilshon kavod, veha rochevet veyoshevet dechiad adeninu vekamar rochevet, mais Est-il vrai que chaque fois que les deux expressions ont la même longueur, la Torah emploie l'expression la plus respectable? Et pourtant, rochevet, chevaucher, et yoshevet, s'asseoir, c'est le même nombre de lettres. Et la Torah a quand même utilisé rochevet et pas, qui est moins respectable. Donc, en fait, ici, t'as rochevet, yoshevet. Yoshevet, c'est plus raffiné. Et tu m'as dit que quand on a le même nombre de... Alors, on prend le raffiné. Maintenant, quand c'est plus court, on prend le plus concis. Et regardez ce que la Gemara va dire, quelque chose de terrible. Rochevet, qu'est-il, c'est écrit chaser. La Gemara répond, la Torah écrit rochevet sans vav. Et comme c'est écrit sans vav, alors c'est plus court que yoshevet avec un vav. Ah, vous allez me dire, mais on a qu'à écrire yoshevet sans vav. Yoshevet, ça s'écrit pas sans vav. C'est à chaque fois que yoshevet est écrit sans vav, c'est une dracha. Et donc, si on a yoshevet sans vav, j'ai obligé d'avoir une dracha.
Et pourquoi pas
rochevet? Rochevet, c'est pas... Rochevet, c'est pas comme ça. Peut-être c'est une histoire de train. Parce que c'est rakevet. Je suis obligé de faire exprès, c'est pour ça, là. Alors maintenant, on le dit... Pardon ?
Il y a eu peut-être Canaan, les enfants étaient sur là, et Moshe et sa femme marchaient à côté.
Non, on parle de là-bas, Rochevet, et on parle de Abigail. C'est pas l'histoire de Moshe. C'est l'histoire de Abigail. Donc. Je continue. Je suis partagé des fois, on va rentrer dans un truc et Rav me dit, il faut foncer. C'est en retard. Hanoutre talmide de Havou, diadve kame de Rav, hadamar shavit, shavit nan, haishmata ke davar acher, mesaknan. Ve hadamar shavit nan, haishmata ke gidi mesaknan, mesankan. Ve lo ishtae Rav, behade daer. Il y avait deux élèves qui étaient assis devant Rav. L'un d'eux dit, cette étude nous a rendu comme une autre chose, c'est-à-dire un porc, fatigué. Et l'autre a dit, cette étude nous a rendu comme un chevreau fatigué. Et Rav, eh ben, il n'a pas parlé pendant un mois, j'en dis ce truc, pendant un mois, avec le premier parce que il s'est mal exprimé. Juste une question. Si le premier, il s'est mal exprimé. Pourquoi tu me dis ce qu'a dit le deuxième? Il s'est bien exprimé. À quoi ça me sert d'avoir la deuxième? Ce qu'a dit le deuxième élève. À partir du moment où un élève a dit cet enseignement nous a fatigué comme un cochon, il a mal les trucs. Alors dit qu'il y avait deux élèves. Pardon ?
Les deux ont fait une remarque.
Ouais, et quoi ? En fait, ce que j'aurais pu croire. Non.
Le deuxième est pensé comme le premier, en fait. Il a dit d'une manière, une meilleure manière.
Non, parce que ce que j'aurais pu penser. Ouais. Ouais. Non, je vais vous dire l'histoire, c'est la suivante. C'est que dans l'expression du premier, j'aurais pu penser que ce qui n'était pas bien dans son expression, c'est de dire que la Gemara l'a fatigué, que la Sugya l'a fatigué. Et donc, j'aurais pu dire que pourquoi Rav lui a pas parlé? Parce qu'il a dit, ce cours, il nous a épuisés. Ah, comme un cochon. Mais alors, qu'est-ce qui était mal? Ça nous a épuisés ou comme un cochon? À partir du moment où on donne l'autre qui dit que ça nous a épuisé comme un chevreau fatigué. Ah, c'est-à-dire, le fait que la Torah nous a fatigué, ça, c'est pas gênant. Parce que la Torah m'a téché de coco chez la dame. Donc, ça, c'était pas gênant. Mais par contre, ce qui était gênant, c'était l'expression de le comparer à Dabar Acher. Mais il a remarqué quand même qu'il avait quand même de la délicatesse. Parce qu'il a pas dit un chazir. Il a dit Dabar Acher. Il a dit l'autre chose. Dabar Acher, on sait que c'est un cochon. Mais il n'a pas dit un cochon directement. Il a dit d'avoir à faire. Donc, il avait quand même un certain raffinement dans sa parole. Mais, ce n'était pas la bonne comparaison. Il y a Khatam Sofer. Non, mais il dit des choses. Parce que Khazir, c'est celui qui doit être Roser. Mais on n'a pas le temps. Sinon je vais faire. Donc, Hanoutre Talmide, Davou, Yatve Kame de Hilel, Vechad, Minayou, Rabban Yohan Metzakai, Ve Amrele Kame de Rabbi, Vechad Minayou, Rabbi Yohanan. Alors, il y avait deux élèves qui étaient assis devant Hillel. L'un d'eux était Rabban Yohanan ben Zakkai, et certains disent qu'en fait l'histoire c'était devant Rabbi Yehuda Hanassi, et l'un d'eux c'était pas Rabban Yohanan ben Zakkai, mais c'était Rabbi Yohanan. Donc on est trois siècles plus tard pratiquement. Donc dans un cas, on est devant Hillel, et celui qui va s'exprimer bien, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Et dans le deuxième cas, on est devant Rabbi Yehuda Hanassi, et celui qui va bien s'exprimer, c'est Rabbi Yochanan, le fameux Rabbi Yochanan, qui est le grand maître du Talmud Yerushalmi. Chadamar, mi pnema botsrin betara vein moskin betara. Un des élèves a dit, pourquoi doit-on récolter les raisins dans l'état de pureté, alors que on n'a pas besoin de récolter les olives dans un état de pureté? En fait, la récolte du raisin s'appelle Betsira, et la récolte des olives s'appelle Messika. En fait, qu'est-ce qui peut se passer quand on va faire la récolte? Un fruit, ou enfin un végétal, ne reçoit pas l'impureté, ne peut pas être apte à recevoir l'impureté tant que il n'a pas été mouillé par un des sept liquides. Vous savez, c'est comme dans la Chotel Nitiat Alayim, Yat Shahad Dam, avec de l'eau, etc. Vous connaissez ces dinim. Et donc, à partir du moment où le végétal a eu, on va dire, de l'eau sur lui, là, il est en mesure de pouvoir recevoir de l'impureté. Et la question qui se pose, c'est qu'on nous dit que quand on fait la récolte du raisin, on doit utiliser des ustensiles qui sont théorim, qui sont purs. Alors que quand on fait la récolte des olives, eh bien, on n'est pas obligé d'utiliser des kelim théorim. Et donc, ça veut dire que les olives, elles vont pas avoir la qualité de pouvoir recevoir l'impureté. Or, que ça soit le raisin ou que ça soit les olives, ils vont lâcher un petit peu de liquide. Et en fait, le principe est le suivant. Quand on va faire la récolte du raisin, il va avoir un petit peu de jus de raisin qui va tomber et qui va en fait humidifier le raisin, qui va le mettre en situation d'être apte à recevoir l'impureté. C'est pour ça qu'on doit le faire dans des ustensiles qui sont purs. Alors que quand on va le faire avec des olives et qu'il va avoir un peu d'huile, enfin du jus d'olive qui va devenir de l'huile, ça s'appelle pas de l'huile et c'est pas chachouv, c'est pas important. Autant le liquide qui peut sortir du raisin qui va être un peu pressé, ça, il va avoir une certaine chachivout, qui va être marchir et donc qui peut rendre impur, et donc c'est pour ça qu'on doit utiliser de tara, alors que pour le raisin, pour le livre, pardon, c'est pas le principe. Alors, il a exprimé comme ça, il a dit pourquoi mibne babotsrin betara, ven moskin betara. Et on n'est pas moskin betara. Il a pas précisé plus. Vechadama mibne babotsrin betara ou moskin betuma. Et l'autre a dit, pourquoi doit-on récolter le raisin dans l'état de pureté, puisqu'avec tout ce qu'on a dit, alors que l'on peut récolter les olives dans un état d'impureté. Le Rav, dans la traduction, il a bien apprécié Moskine. On peut Betouma. On n'est pas obligé Betouma. Bien que, on aurait pu penser, il y a des fois des cas où on fait exprès qu'il y ait une certaine impureté. Par exemple, pour la Paradouma, on veut que ce soit Tvoulium, hein, il y a des fois des cas où on fait exprès qu'il y ait quelqu'un qui soit d'un certain niveau d'impureté pour nous apprendre parce qu'on a une opposition par rapport au Tzidoukim ou des choses comme ça. Et là, en fait, c'est pas être moskin betum'a, nécessairement de le faire dans la pureté. Mais on pourrait le faire dans la pureté. Donc il a dit, mot tamé. Et là, on fait une marloquette dans les Rishonim, savoir lequel des deux, en fait, a bien dit.
Oui, parce que c'est Ketsara, donc avec Ketsara.
Bien que, un, il a été plus court, betum'a, et l'autre, l'obetara, donc, il était un peu plus long. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Que c'est la meilleure expression qui va être raffinée, ou celle qui est la plus concise?
La réponse, c'est comme c'était pas obligé, il a dit Betouma, il a pas dit pas Betouma, c'était pas Medouyak, donc c'est lui qui était en fautif.
Oui, parce que
il a dit Betouma, alors que c'est pas vrai.
C'est pas Betouma.
C'est pas Betouma, tu peux le faire Betouma. Donc c'est pour ça qu'il est devenu, Bar-Ora. Pourquoi alors il est devenu Balora? Parce qu'il a été Medayek. Un Balora, c'est qu'il ne fait pas d'erreur même dans la prononciation, même dans la présentation de la halakha. On dit Betouma, c'est pas Medouyak. Mm-hmm. Donc c'est pas un Balora.
Oui. Et aussi, on pourrait dire la chose suivante, c'est que Derech Tsara, j'ai vu, c'est quand le Rav enseigne à un élève. Mm-hmm. Et le rave qui enseigne l'élève, il doit le faire de la façon la plus circoncise. Mais quand là, ce sont des élèves. Et comme c'est des élèves, alors lui, non, il doit être précis. Vaut mieux qu'il soit, vaut mieux qu'il ait un bon langage, même si c'est plus long. Il n'a pas l'exigence d'être concis. Après, on nous a dit, Amar, alors il a dit, Mouftar ani bazé, shemore au rabbe Israël, velo ayayim mouratim, ah, shehora au rabbe Israël. Le maître dit, je suis certain que le premier élève rendra des décisions halakhiques pour Israël, et il n'y a pas eu que quelques jours avant, d'accord, quelques jours avant qu'il ne se rende des décisions halakhiques pour Israël. Donc, on a, en quelques jours, c'est devenu Rabbi Yochanan ou Rabban Yochanan ben Zakkai, suivant l'histoire. Il y avait trois kohanim qui ont reçu une part du lechem apanim. Vous savez, le lechem apanim qui est échangé de Shabbat en Shabbat, où il y avait le miracle, il était encore tout frais. Lundi, j'ai reçu un morceau de la taille d'une fève. L'autre dit, j'ai reçu un morceau de la taille d'une olive. Et le troisième dit, j'ai reçu un morceau d'une taille d'une queue de lézard. Mais normalement, on aurait dû partager tous pareil. Et puis, il y a un autre problème. Le premier, il a eu comme une fève, donc il n'a pas eu qu'un zaït. Comment il a fait la mitzvah? Alors, juste en rapide, parce que c'est que dans le din des corbanotes, c'est pas un din de achila de la personne. C'est pas la personne qui doit manger un kazaït. C'est que le kodesh, il doit être mangé. Alors même si quelqu'un il a moins qu'un kazaït, c'est pas le principe. Il faut que ça soit mangé. Ou alors il y a une autre approche, c'est de dire que en fait il y a une mitzvah de manger, mais il y a aussi une mitzvah de qui doit pas rester le notar. Et donc pour être mekayem les mitzvahs, que ça reste pas. Autre explication, il a mangé un petit morceau de pain, mais avec de la viande du korban. Donc les deux se complètent et là ça fait un kazaït. Donc comme ça, et il a pu avoir le faire comme il faut. C'est le troisième quand même, il a fait oser, puisque alors que les autres ils ont utilisé le monde du végétal qui est tahor, le troisième il prend quelque chose qui est impur. Mais là il y a Zana Valeta, c'est ça repousse. Donc il y a aussi des choses qui pourraient être. On les a dit bat ku acharomatsu bo shemetz pasul. On savait que le troisième qui a dit comme une queue de lézard. On a vérifié la généalogie du troisième. On a trouvé que cette généalogie avait un problème qui est disqualifié d'être Cohen, que son père, son grand-père s'était marié avec une divorcée, par exemple. Et donc, il était halal. Ah bon? Comment? Et pourtant, nous avons appris dans une Mishnah. On ne vérifie pas la généalogie d'un Cohen qui a fait le service des sacrifices depuis l'autel et au-delà. C'est-à-dire, si quelqu'un, il arrivait déjà à servir dans le temple, on va commencer à chercher des poux, attends, est-ce qu'il est vraiment Cohen? Est-ce qu'il n'y a pas un pissoul? Non, c'est il est Cohen, il est arrivé au Mitzvah. On ne fait pas cette recherche. Alors comment on va s'en sortir? Deux réponses. L'otema, shemetz pasoul, et la ema, shahatz pasoul. Veiba et ema, shahaniatam, deu, deara, nafshe. Première réponse. Ne dis pas qu'on a trouvé un problème disqualifiant, mais dis plutôt qu'on a trouvé des comportements inconvenants le disqualifiant. En fait, c'était pas un problème légal, mais c'est un problème moral. Et donc, il avait pas, il était un peu balgava, le type. Il était pas, il avait un déconsidéré un peu la voda, quoi. Tu appelles le pain de Ramapanim comme une queue de lézard. C'est pas. Et sinon, on peut dire une deuxième réponse. Nous, on n'est pas bodek. C'est-à-dire un type, un Cohen, il arrive là, et il est au Mizbeach, on ne va pas chercher. Mais ici, si tu veux, je peux dire, c'est différent là-bas, puisque lui-même s'est compromis. C'est lui qui a remis les choses en question. Autrement dit, par son expression, il a remis en cause la qualité et sa qualité de Cohen. Donc, nous, on ne va pas lui chercher des poux, mais si le type, il se comporte mal, on dit, ben ça c'est bizarre, ça va être problématique. Et là, on va nous raconter une petite histoire. Il y avait un araméen qui montait et mangeait les sacrifices de Psachim à Jérusalem. Et il avait entendu qu'il y avait des bonnes grillades. Alors, il s'est fait pousser des péotes, il a mis un chapeau noir, etc., et des bas blancs, et il a mis un bikéché, et puis il est arrivé, il a dit, ah, moi, je suis un gros chosid. Et il est venu pour manger, alors qu'il était, et il a dit, une fois, il a dit à Rabbi Yehuda ben Betera, il est écrit, regardez, il est écrit, tout étranger n'en mangera pas, tout incirconcis n'en mangera pas, ni arène, ni rien. Et il dit, moi, je suis, et un étranger, et un harel, et moi, voilà, j'ai mangé le meilleur du morceau du Corban Pessah. Donc c'est, là, il s'est dévoilé dans ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il est venu voir Rabbi Ben Betera? Alors, Rabbi Ben Betera, il dit, ah, tu me dis ça, tu vas te dévoiler par ta parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Amar le Rabbi Ben Betera, Mika Safoulach, Me Alia, Amar le La. Et Rabbi Ben Betera lui a dit, est-ce qu'on t'a donné de la graisse de la queue? Ah, il dit, non, j'ai pas, alors qu'est-ce qu'il a dit? Qui salik? Léatam, imaleu, sifouli, mealia. Qui salik? Amarlou, mealia. Mealia, safouli. Amourle, elia, le gars, voilà, c'est le cas. Alors il a dit, quand tu monteras là-bas, la prochaine fois, dis-leur, donnez-moi de la queue à manger. Et quand il monta, à nouveau, il dit, donnez-moi de la queue. Il dit, la queue. Mais la queue, c'est pour le misbéach. On mange pas la queue. Alors, en fait, Rabbi Yehuda ben Betera, il lui a mis un piège. Et donc, pour que ceux qui l'invitaient toujours pour manger du Corban Pessah, ils disent, tiens, c'est bizarre. Attends, il arrive un gros chossid, rabouini, machin, avec les péotes, etc. Et il demande un truc que tout le monde connaît, que la queue, on la mange pas. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Amroulé manamarlach achi. Amarleu, Rabbi Yehuda ben Betera, Amroulé, Maï, Haïk, des Kaman. Donc ils lui demandèrent, mais qu'est-ce qu'il a dit de demander la queue? Il leur a dit, c'est Rabbi Yehuda ben Betera. Ils se dirent entre eux, qu'est-ce que cette affaire qui nous vient là? Ils ont dit quoi? Rabbi Yehuda ben Betera, il t'a dit de demander la queue? C'est bizarre. Alors, la question qu'on peut se poser, mais Rabbi Yehuda ben Betera, pourquoi il ne venait pas à Yerushalayim? Alors il a dit qu'il n'avait pas de terre. Soit il n'avait pas de terre. Et c'est pour ça qu'il pouvait pas faire l'alia, où il était trop âgé, et il pouvait pas faire, était donc pas tour. Donc c'est pour ça que lui, il pouvait pas aller là-bas et dire de lui-même. Alors, batku batre, vashkechuhu, de aramahu, vekatluhu. Et ils firent des vérifications à son sujet, ils découvrirent qu'il était araméen, et ils le tuèrent. C'est Chaim Mita, celui qui mangeait du Corban Pessah? Pourquoi? Bon, c'est pas Chaim Mita. Non, parce que c'était du vol. Quoi? Et un goy, il chayev mita parce qu'il mangeait le Corban Pessah. Quand l'arrêt le yachalbo, il n'est pas chayev mita. Il est arel, oui, il n'a pas le droit. Mais est-ce que c'est passé de mort? Il est arel quand même. Il est arel. Mais est-ce que c'est pas chayev mita?
Le mitrat rinour, il dit azaratan zo mitatan.
Le fait que ce soit interdit,
pour eux,
c'est une fratrie noire. Sinon, j'avais vu, c'est que, quand il a pris une part, donc il a pris une part sur un autre juif qui n'a pas pris le Corban Pessah, donc c'est du vol. Ah, oui. Et le vol, alors là, c'est Khayemita. Ah, oui. Donc, Shalchou le Rabbi Yehuda ben Betera, Shalom lach Rabbi Yehuda ben Betera, de Ad Benitzivin, Mitsudater, Perusa Birushalayim. Et ils envoyèrent un message à Rabbi Yehuda ben Betera, paix à toi, Rabbi Yehuda ben Betera, car tu es un Nitzivim, mais ton filet se déploie jusqu'à Jérusalem. C'est quelque chose de... Bon, il y a... Rav Kahana Halash, Shadrua Rabbanan et Rabbi Yoshua Bere, des Rav, il dit, Amroule Zil Bedok, Maïdine, Ata Ashkechet de Nahnafshe, Karael El Bouché, Veadre Le Kare, Lahore, Ubache Veate. Rav Kahana est tombé malade. Les sages ont envoyé Rabbi Yoshua, le fils de Ravidi, en lui disant, va vérifier quel état de Rav Kahana. Rabbi Yoshua est venu, et a trouvé Rav Kahana qui était niftar, qui était décédé. Il a déchiré son vêtement, et a fait passer la déchirure derrière lui, et est revenu en pleurant. Amroulé Nachnafshe, Amar lehu ana lokamina, motzi diba ukesil. Les sages ont dit, bon, nous, on t'a envoyé pour apprendre les nouvelles de Rav Kahana. Rav Kahana est-il décédé? Il leur a dit, moi je ne dis rien, car il est marqué, celui qui rapporte une mauvaise parole est un imbécile.
Il a répondu,
quoi?
Il a répondu, oui, mais
Alors, il a pas répondu clairement qu'il est mort. C'est comme ça qu'on dit aussi, quand il y a un iftar, on jette l'eau qui était stagnante autour. On dit, c'est pour pas annoncer. Faut pas se précipiter. Il y a quelqu'un qui est iftar, de suite, ah, il y a des iftars. Et souvent, on le dit d'une façon détournée, en disant, soit il ne souffre plus, ou alors de dire sa femme est vivante, ou on le dit, qu'on va le voir un peu plus loin. Yohanan hako ka'a nafak le kriyata ki ata amroule hitin na asuyafot. Yohanan hako ka'a est allé dans le village de la campagne. Quand il est revenu, ils lui ont demandé, les récoltes de blé sont belles? C'est bon, là, la récolte était pas belle, hein, la récolte. Alors qu'est-ce qu'il dit? Amar lehem, ce horim na asuyafot. Amroule, se ou baser la soucim et la hamorim dirtiv. Asse horim va teven la soucim et la rechèche. Il leur a dit, non, alors, il a quand même dit, il a pas dit le blé était pas bon. Il a dit d'une façon un peu détournée. Il a dit, les récoltes d'orge ont été belles. Mais la récolte d'orge, c'est ce qui est mangé par les animaux. Alors, lui, on dit, ironiquement, va et annonce la nouvelle aux chevaux et aux ânes. Comme il est dit, l'orge et la paille pour les chevaux et les montures rapides. Maï, havele les mémars. Attends, qu'est-ce que tu reproches? Tu reproches qu'il aurait dû dire Sorine, et il a dit Sorine, qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Il pouvait pas dire le blé, c'était pas bon. Alors il a dit, eshtakad na asuchitim yafot, inami adashim na asuchitim. Donc deux réponses. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire, l'année dernière, la récolte de blé était belle, ou encore, je suis presque une minute. On aurait pu dire les lentilles ont été belles. Et les lentilles, c'est aussi une nourriture humaine. Voilà, j'ai une minute de retard.
D'accord, on va faire juste, on va juste continuer pour que c'est le même sujet, pour ne pas faire sur les animaux. On va continuer sur les hommes. Pardon. Alors juste, on fait le... Vas-y, fais-moi le... Bon, les animaux, je vais très vite.
Hein?
Mais il m'a dit, tu vas très vite.
On voit que c'est l'écran. L'écran, il est éteint, Patrick?
Voilà. Barbotaille, juste un instant. On va pas finir, on va pas faire un... Vas-y. Pourquoi ça s'arrêtait tout ça?
Parce qu'il a coupé le...
Hein?
Il passe là-bas maintenant.
Qu'est-ce qui passe là-bas, quoi?
On va vous mettre l'image là, comme ça vous avez les deux en même temps. Du coup, le son il passe là-bas. Vous avez changé l'inverse des... Après.
J'ai une batterie en plus. On va pas. Le temps qu'il nous prépare le repas. Donc on va avancer un tout petit peu. Allez. Pas mieux comme ça. Ça marche pas.
Jean-Paul, il m'a dit de façon à mettre en valeur votre...
C'est
mieux ça?
Il m'a demandé.
Il faut
voir les deux avec cadrage.
Il faut voir les deux?
Non, pas le mettre cadrage. Il faut voir le texte. Comment on regarde le cadrage?
Alors, Botaille, juste... On voudrait remercier... Ça marche pas. On voudrait remercier, donc, Rav Boazerbib, qui va rester avec nous, il va faire encore du limoud. Mais on va continuer juste la Gemara, le temps que Monsieur Souffant nous prépare nos sandwichs. Et je crois qu'on va manger sur place, parce que sinon on va pas y arriver. Alors, Rav Bar Achua de Rapria, ou Bar Arte
Alors, il faut savoir que Rav était le... Il avait un oncle hyper connu qui s'appelait Rav Chia, qui était la Chavruta, l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est pour ça qu'on dit que de Rav est considéré comme un Tana, puisque son oncle était Rav Chia. Et son père s'appelait Aïvou. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Rav était le fils du frère de Rav Chia, qui s'appelait Aïvou, était aussi la demi-sœur de Rav Chia, qui s'appelait Ima. Voilà donc la généalogie de Rav. Et voilà que Rav, un jour, a voyagé en Eretz Israël, et Rav Chia, son oncle, lui demanda, « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec mon frère, qui est ton père ? Est-ce que Aïvou, mon frère, est-il encore en vie ?» C'est un peu la question que les enfants de Yaakov, Yosef a demandé, « Od Avinu Chai, est-ce que Aïvou, mon frère, est-il encore en vie ?» À Marlé, alors comme on vient de dire, on vient d'entendre là, le Rav, on ne dit pas une mauvaise nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Pourquoi tu parles de mon père, c'est-à-dire ton frère ? Pourquoi tu ne parles pas de ta sœur, ta demi-sœur ? Demande si elle est encore en vie. Alors, il n'a pas compris tout de suite la réponse. Il dit, mais alors, et dis-moi, alors, elle a en vie, ma sœur ? Alors, il dit, mais pourquoi tu parles de ta sœur ? Pourquoi tu ne parles pas de ton père ? Donc, c'est une manière détournée pour dire qu'en réalité, et le père et sa mère, et ça veut dire entre le frère et la sœur de Rav, malheureusement, avaient quitté ce monde. Mais, Baruch HaShem, ils ont laissé Rav. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le seul Rav qui s'appelle Rav. Il n'y a pas un autre Rav. Si on aurait dit Rav, on aurait pu dire, si c'était son nom de famille, on aurait dit Rav, son nom. Alors, on va dire le Rav, mais non. On l'a appelé Rav parce que c'était Rav, voilà, c'est tout. C'est son nom, c'est Rav. Il n'a pas d'autre nom. Son vrai nom, c'est un Rav. Celui qui arrive à faire que son nom devient Rav, il est vraiment un bon Rav. Alors, à Marlé, les Chamais.
Son père, c'était Aïvou. C'est le père.
Oui,
c'est sa mère, Imou.
Ima.
Ima.
C'est ça.
Son père, sa mère.
Voilà, il y a le père, une famille, c'est le père par excellence, la mère par excellence et le rat par excellence. Mieux que ça, on ne peut pas faire mieux que ça. À Marlé, donc le frère dit les chamais, parce que évidemment Rav avait déjà pris le deuil, il avait fait déjà les 7 jours de deuil, même il avait fait déjà les shloshim. Mais lorsqu'il est revenu, il a vu Rav Chia. Rav Chia n'avait pas entendu que son demi-frère et sa demi-sœur étaient Niftaret. C'était Niftarim. Donc lui, maintenant, il doit prendre le deuil. Mais vous savez que le deuil, s'il n'est pas annoncé le jour même, en tout cas dans la semaine de jeûne, alors, ce qu'on appelle Shmuar et Choka, on ne fait pas les 7 jours, on va faire un mini deuil, un mini jeûne. Et on va voir, on va prendre la route, qu'est-ce qu'on fait exactement. Amarle les Shamae. Alors Rav Chia a dit à son serviteur, Chalotli min Ali, veoler keli achara le bet amidrash, amechatz. Il faut que tu m'enlèves mes chaussures et tu portes mes vêtements après moi au bain. C'est ça la phrase qu'il lui a dit. De ça, on peut apprendre 3 enseignements. Premièrement, Shmamina Avel Asobina Tatandal. Ça, on a appris que quelqu'un qui est en deuil, il ne doit pas garder ses chaussures, en tout cas pas en cuir, et il doit marcher pieds nus. Deuxième chose qu'on apprend d'ici, que lorsque le deuil est entraîné par une annonce tardive, au-delà des 3 jours, des 7 jours, alors on ne doit pas faire un deuil de 7 jours, on doit faire un deuil de un seul jour. Un seul jour, on est en deuil. Et troisième chose qu'on apprend ici, ce qu'on appelle Shmo Rechoka, Enanoget et Ayom Echad, Veshmamina Miksat Ayom Kekulo. On apprend ici qu'une partie du jour est considérée comme un jour entier. Donc il doit faire en réalité un seul jour, et ce seul jour-là, il le coupe. Il n'y a pas besoin de faire 24 heures, ni 12 heures, il suffit de faire un instant. C'est ça qu'il lui a dit. Enlève-moi les chaussures, donc je suis en deuil. Et tout de suite, amène-moi mes affaires au bain, je me lave parce que c'est fini le deuil. Donc c'est un deuil qui dure une heure, qui dure une demi-heure, qui dure 10 minutes. Et de cette manière, il a fini le deuil de son frère et de sa sœur. Maintenant qu'on a bien compris l'importance du Lachon, puisqu'on est dans Maseret Psachim, on apprend le Lachon, parce que pour l'instant, vous savez pas, on en remarque, ça fait déjà le troisième daf, qu'on ne parle rien que de la langue, utiliser sa langue. Maintenant, la Gemara va nous dire que une personne, des fois, elle parle des mots, elle a un langage, et de son langage, on peut deviner de quelle tribu vient-il. Une personne, alors vous savez tous que nous descendons tous, soit de Yehuda, soit de Binyamin, sauf évidemment les Kohanim. Mais à l'époque, il y avait 12 tribus. Et bien qu'on dit que les Asarat HaShvatim ont été égarés, mais pas tous. Il y avait toujours parmi nous, et peut-être même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent juste de Dan, il y en a qui viennent de Naphtali, il y en a qui viennent de Zvouloun, toutes sortes de personnes. Et là, la Gemara va nous dire un chidouche extraordinaire. Des fois, on ne sait pas, nous, de qui on descend. Bon, on sait qu'on est Tunisien, mais à part ça, qu'est-ce qu'on est, à part ça? Alors on peut se dire, bon, alors, qui sommes-nous? Dit la Gemara, on peut savoir, d'après la manière, comment on va parler. Écoutez bien. Aou de Amar, Dounou Dini. Chaque fois, il disait, jugez mon affaire au tribunal. C'était un homme qui voulait toujours, il veut toujours le din Torah. Non, moi, je veux savoir. Allez, on va au tribunal. Et pourquoi il est tellement obsédé par le tribunal? Shmamina Midankati. On a compris que cet homme-là descend de la tribu de Dan. Comme il est écrit, Dan jugera son peuple comme l'un des tribus d'Israël. Ça veut dire que des fois, une personne, elle peut dire des mots, de ces mots-là reflètent son identité, son mazal. S'il parle, toujours il dit, je veux le din. Je veux faire le din, tu viens de Dan. Deuxième preuve, Aoud avec Azil Vamar. Il y avait un homme qui disait souvent, j'établirai un palais au bord de la mer, Ken Hiratson. Lui, il rêvait d'avoir une villa à Herzliya Pitoua. Il dit, quand est-ce que je vais construire ma villa Herzliya Pitoua? Tu veux aller à Bedvagan? Non, Herzliya Pitoua. Maximum Netanya. Ashkelon. Mais non, Beersheba. Non, pas Beersheba. Pourquoi? Alors, dit la Gemara, on a fait des recherches, on a découvert qu'il venait de Zvouloun. S'il aime tellement la mer, ceux qui vont tous les Shabbats à Deauville, ils doivent se préoccuper que peut-être ils descendent de Zvouloun. Qu'est-ce que tu as à faire à Deauville? Il pleut, il fait mauvais temps, il y a du vent, et en plus il n'y a pas de tzniout. Qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Laisse tomber, va autre part. Ah, si tu aimes là-bas, quelque part, tu aimes la mer, c'est que tu es... Voilà, bon, pour ceux qui vont on s'arrête là. Bako, Vashkechum et Devlon Kat, dire-t-il?
Hein?
Zvolot? Non, même aujourd'hui, parce qu'on y a même des Asarat HaShvatim qui sont perdus, il y a quand même parmi nous certaines personnes qui ne sont pas des Shvatim, comme je viens de dire. Les Chof Yamim Mishkol. Voilà, maintenant qu'on est arrivé. Voilà. Hashta de Kaimalan de Kula Alma Orurtao. On vient de. Voilà, on a fini maintenant cette première partie. Maintenant, on va parler des choses un peu de halakha. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de halakha. On a fait beaucoup de lachon. Comment parler, comment utiliser son langage, comment châtiller, châtie ton langage, châtie-le. Il faut châtiller le langage. Il faut parler Bekavod. Maintenant, l'agma va rentrer dans ce qu'on va appeler un petit peu les halachot de Bdikat Hametz. Vachad des Kaimalan des Kula Alma Orurtaou. Maintenant qu'on vient d'expliquer que la Bdikat Hametz se fait la nuit et pas le matin, la question qui se pose, Mirde, Ben Rabbi Uda, Ben Rabbi Meir, Hametz Nora sur la Meshachaot Mala, Nitok Veshit.
Et en fin de compte, on vient d'expliquer que d'après la Torah, c'est à midi. D'après certains, on a ajouté une heure avant. D'après l'autre, on a ajouté deux heures avant. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que d'après la Torah, c'est la sixième heure. Alors, on devrait normalement faire la bdikat hametz juste avant de brûler le hametz. Logique. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire la bdikat hametz alors que pour l'instant, on est encore dans le pain? On fait bdikat hametz et on mange du pain. Non, finissons le pain, on ramasse tout et on le brûle. Question simple. Vechi tema zrizim akdimi le mitzvot. C'est vrai. Normalement, on devrait attendre la sixième heure. Mais nous, les Juifs, on n'aime pas traîner. On n'est pas des traîneurs, traînailleurs. On ne sait pas, nous. On sait faire les choses de très rapidement. Vechi tema zrizim akdimi le mitzvot. Parce qu'on veut faire très très vite. Mais plus vite que la chanson, on ne peut pas faire. Quel est l'homme le plus rapide que vous connaissez dans le monde? Non, je parle qui vient de gagner les 400 mètres. Hein? Voilà. Donc lui, le mec, quand est-ce qu'il fait sa course? Le matin. Il ne fait pas la course la nuit. Alors pourquoi nous, on a besoin d'être plus qu'Avraham Avinu? Avraham Avinu aussi, il a fait Zrizim Akdimi la Mitzvot. Il a fait la Brit Mila de son fils le petit matin. Il est parti faire la tefila Vaishkem Avraham Baboker pour faire pour la Kedat Yitzhak. Le matin, il n'est pas parti le soir. Alors pourquoi nous on a besoin de faire la bdikat hametz le soir? On peut très bien faire la bdikat hametz le matin, mais on est vraiment dans l'excellence. Rite mazazim magdine mitzvot, d'accord? Nibdog mitzafra, nibdog mitzafra, on doit faire le matin, dire si bayom hashmini imol besarolato, même la Torah, elle a dit que c'est le matin qu'on fait la Brit Mila, alors que le huitième jour, il a bien déjà commencé déjà à la nuit. On aurait pu faire la Brit Mila le soir. Et la Torah a dit non, c'est bon, le soir c'est bon, le matin tu fais la Brit Mila. Ah voilà, c'est bon. Mais Tania, quand la Yom Kulo Kachon Mila, on peut faire la Brit Mila à n'importe quelle heure de la journée. Et là, chez eux, ils disent, il y a une mitzvot. Et les gens qui sont zélés, ils sont prêts à faire la mitzvot. Je suis Avraham Aboker, comme Avraham Avinu. Comme Avraham Avinu. Donc même le Avraham Avinu le plus rapide, le plus zélé parmi tous les Avot, parmi tout le peuple d'Israël, il s'est pas levé le soir. Alors nous, prends un bdikat hametz le soir. Attends le matin, tu te lèves le matin, tu prends un café, tu fais ta bdikat hametz et tu viens à la Sina. Ouf, j'ai terminé avec mon hametz. Pourquoi fallait-il faire le soir? La Gemara répond deux réponses. Amar Nachman ben Yitzhak, Beshaach et Ben Adam Metsuim Bebetem. Veor Aner, il a fait la bdikat. Le problème, c'est les Chachamim, comme on a expliqué dans Tosfot. Les Chachamim ont cherché à trouver le moment le plus adéquat à faire bdikat hametz. À savoir, le matin, les gens quittent leur demeure pour vaquer à leurs occupations. Le soir, on rentre tous à la maison à une certaine heure. Et grâce à ça, on, quelque part, le soir, tout le monde est chez soi à la maison. Et donc, on a trouvé bon à imposer la bdikat hametz au moment où tout juif est dans sa maison, à savoir le soir. Et deuxième raison, évidemment, si on va faire bdikat hametz le matin, la bougie, elle n'est pas vraiment efficace, puisque si on veut faire vraiment bdikat hametz, il faut attendre la nuit. Donc, pour ces deux raisons-là, premièrement, pour faire la bdikat hametz tous ensemble au même moment, c'est-à-dire à la nuit, et pour que la bougie, elle a plus d'effet, c'est exactement pour la raison pour laquelle on a fixé de faire à la lueur de la bougie le soir. Et grâce à ça, hein, on fait exactement la mitzvah. D'ailleurs, comme je dis, on a parlé beaucoup de or, la lumière, la lumière, la lumière, dit le Raval, Rabbi Avraham ben David, ramené dans le Ran. Il dit, pourquoi on a parlé de or? En fin de compte, c'est pas le jour, c'est la nuit. Parce qu'on doit faire 10-4 hametz au début de la nuit. On ne peut pas se dire, la nuit, l'Aïnara à 12h. Moi, je passe moi à 8h du soir, à 20h, 21h. À 2h du mat, je fais ma vie 4 messes tranquille. D'abord, je prends un petit repas sympathique, je fais des grillades. Et après, je fais 4 mètres. Pas du tout. Or, là, Bassar, si on veut faire cette année bien, bien la 4 mètres, il faut commencer ma mâche quand il y a encore un peu de lumière. C'est la nuit, mais il y a de la lumière. Parce que si vous regardez bien le ciel, si vous êtes des bons observateurs, vous allez remarquer que quand il y a les 3 étoiles dans le ciel, il y a encore un petit peu de lumière, un petit peu de lumière à l'ouest. Et c'est ça le hors l'arbasar. C'est qu'on a voulu trouver le trait d'union entre le jour et la nuit. Et ce moment-là, c'est le moment où nous, le peuple d'Israël, on a la force d'avoir la possibilité de pouvoir en même temps conjuguer le jour, conjuguer la nuit et transformer le jour et la nuit comme une lumière pour l'éternité. Amen, Kenneratson. Alors, l'Agmar a dit à Marabaye, puisque c'est important de commencer à l'heure fatidique qui est la sortie des étoiles, Aïtsouba Mirabanan, Lolita Bina Beucha, de Tissar Nage Arbasar, Dima Mashreleshma, Tabati Lenloué. Un homme ne peut pas étudier le soir du 14 Nissan dès que les 3 étoiles brillent dans le ciel. Pourquoi? Parce que son étude peut se prolonger et il va arriver à étudier et oublier Hasbe Shalom la mitzvah de Khamet. C'est la première fois dans le monde qu'on nous on dit c'est interdit d'étudier la Torah. Voilà une bonne question pour le soir du Seder. Quel est le cas où on n'a pas le droit d'étudier la Torah? Oui. C'est quoi cette question-là? Eh ben oui. On n'a pas le droit d'étudier la Torah au moment où il y a Bigat Hamet. Bigat Hamet, ça passe avant la Bigat Hamet, elle passe avant l'étude de la Torah. Et Kalva Chomer, il y a plus forte raison qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de prendre un bain, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, tout ça c'est interdit. Si même étude de la Torah, on n'a pas le droit à Kalva Chomer, la suite. Baou Miné Merav Nachman. Maintenant, voilà un cas pratique, Rabotai. Un cas qui arrive tous les années et que, en général, je réponds à peu près 50 fois au Bamo chaque année. Pas un disciple, tous les gens me posent cette question. C'est une question classique. Baou Miné, on va prendre Agmara. Baou Miné Merav Nachman Baitra. Je vois que Merav Nachman Baitra, c'était un pro dans ma secrète psachi. Baou Miné Merav Nachman Baitra. Amaskir Bait Le Chavero. On a demandé à Rav Nachman si quelqu'un loue une maison à son prochain pour Pessah. Il a loué, il dit, voilà, je te loue ma maison. Il va, par exemple, il a pris une location à Beit Vagan, il a pris une location Herzliya Pitouar. Amen, Kenneratson. Imagine-toi, et donc tu as loué, et toi tu arrives en Israël. Tu prends l'avion, tu arrives en Israël. Et tu rentres dans ta maison. Alors, qui c'est qui vit à 4 mètres, là? Qui c'est qui vit à 4 mètres? Le locateur, le loueur, on va voir, Almi et Ramet. Est-ce que c'est le loueur ou le locataire? Almi, à la masque, l'ivdok, parce qu'a priori, le problème, c'est que le Ramet qui se trouve dans cette maison, moi, j'ai pas utilisé. Le Ramet, c'est pas à moi. Le Ramet, c'est à lui. C'est lui qui a utilisé la maison pendant toute l'année. Donc, son Ramet, c'est à lui. Mais d'un autre côté, qui c'est qui va jouir de ce local, de cette place, de cet endroit, de cette maison? C'est qui? C'est moi. Alors c'est qui a la mitzvah de faire Bdikat Hametz? C'est le loueur de chercher, car, pourquoi? Parce que la maison, ça devient la sienne. Ou bien c'est le locataire qui doit louer. Pourquoi? Parce que le Hametz, il est dans son domaine. Donc on regarde bien. C'est qui est responsable? Le propriétaire du Hametz ou bien celui qui va jouir de cet espace? Qui est le responsable? Alors, ça, tout dépendra. Si c'est moi qui dois faire l'abdicat Hametz ou bien c'est lui qui doit faire l'abdicat Hametz. C'est une grande différence. Parce que moi, je peux imposer à moi locataire, je peux imposer à mon loueur, je dis, écoute une seconde, moi, tu n'as pas l'abdicat Hametz, 500 € de moins. Moi, je peux pas prendre la tête. J'arrive à Pessah, tu veux que je commence à nettoyer tout ton Hametz? Tu sais combien il y a de Hametz chez toi à la maison? Pas possible. Ça arrive très souvent, par exemple, quand on va dans des séjours organisés, quelqu'un, il arrive à l'hôtel, on lui dit, voilà, votre chambre, ah, merci. Il rentre dans la chambre, c'est pas possible. Il y a du Hametz partout, il y a du whisky dans le machin. C'est quoi cette histoire? Ben, c'est votre problème, monsieur. Si vous avez loué, c'est votre problème. Dis même, le whisky n'est pas à moi. Ben, d'accord, ben, on vous l'a mis à tout jamais. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas trop religieux. Je sais pas. Alors maintenant, qui est le responsable? Moi, j'arrive avec ma femme, mes enfants, etc. Est-ce que je dois faire 10 4 mètres ou pas? C'est ça le problème de l'Agma. Réponse, Tashma, viens écoute. Une réponse qui ne va pas tenir la route. Parce qu'on va faire une comparaison entre Pessah. Une comparaison entre Pessah et la Mezouza. Amaskir baite chavero, ala socher la sotlo Mezouza, ou pas. Il y a écrit dans la Braïta, quelqu'un qui a loué une maison, qui est responsable de mettre les Mezouzot? Est-ce que c'est le loueur ou le locataire? La Braïta nous dit, c'est le locataire. On ne peut pas demander à un loueur, tu m'as loué une maison, mets-moi des mezouzot. Mais non, moi, je les ai enlevés. C'est vrai qu'à l'arrivée parlant, on ne peut pas les enlever, parce que celui qui enlève les mezouzot, il a une sakana. T'as le chalot, ça peut lui arriver des gros malheurs. Mais si ils s'en foutent des malheurs, moi je m'en fous, j'enlève mes mezouzot. La personne, le locataire qui débarque, eh ben, il dit, ben, je suis désolé, je dois m'acheter des mezouzot, et je vais les mettre. Et après, il dit, bon, maintenant, je vais les enlever. Ah, si tu les enlèves, ça va être une sakana. Il dit, non, moi, j'ai peur de la sakana. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui va arriver? Le loueur, il a enlevé les mezouzot. Lui, le malheureux, il comprend pas c'est quoi une sakana. Et le locataire, il va mettre les mezouzot. Et lui, il a peur de la sakana. Il va la laisser. Mais, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? L'alakha a été tranchée que le locataire, c'est lui qui est responsable de la mezouza. Et donc, de là, nous voyons que l'essentiel par rapport, quand on a un conflit entre le locataire et le locataire et le loueur, c'est le locataire qui incombe les mitzvot. Donc, on voit d'ici aussi, on pourrait faire le parallèle, la même manière que pour la mezouza, c'est le locataire, la même chose pour le hametz.